Bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous, et on va donc commencer cette table ronde. L'avant-dernière, puisque la prochaine, ça sera sur la santé, vous avez d'ailleurs la date, c'est le 29 novembre, donc c'est proche. Celle-ci s'inscrit dans un cycle, il y a toute une exposition en cours à Mendès sur le problème du numérique, donc c'est un peu à cette demande, à cette rencontre que nous avait invité Didier Moreau, que j'excuse cet après-midi parce qu'il est retenu par d'autres obligations. Mais voilà, donc le thème c'est entreprise, entrepreneuriat, digitalisation. Et comme à l'habitude, on a essayé de regrouper différents points de vue, très divers, sur le même sujet bien sûr, pour essayer d'avoir des éclairages très contrastés, des discussions. Je relancerai parfois certains intervenants sur des sujets qui nous ont un peu traversé l'esprit tout à l'heure, en échangeant déjà. Et donc là, dans un premier temps, je donne la parole à Arnaud Lissajou, qui est Scrum Master, donc il nous dira ce que c'est, en même temps, l'entreprise Popa, voilà, et je le laisse développer son propos librement, bien évidemment. Arnaud, à toi.
Eh bien, je te remercie, Jackie, pour cette invitation.
Voilà, merci.
Très bien, alors si vous me prenez en photo, n'hésitez pas à rajouter le hashtag, effectivement, EMF Territoire, pour qu'on puisse retrouver sur les réseaux sociaux cette publication. Je suis Scrum Master, tu disais, Jackie, je te remercie de m'avoir invité à participer à cette journée. C'est un super moment d'échange. On a passé d'abord un très bon déjeuner avec les différents intervenants qui sont réunis aujourd'hui, à apprendre à se connaître, à voir les atomes crochus que nous pouvions avoir. Il y a effectivement plein de choses qui se passent sur le territoire pour rapprocher des chefs d'entreprise, des personnes du milieu de la formation, notamment de la formation au métier du numérique, différents acteurs, et c'est ce que fait très bien, finalement, l'espace Mendès France. C'est pour ça qu'on a, je pense, tous accepté cette invitation. Scrum Master, c'est un métier nouveau. Je pense que maintenant, il faut s'habituer à voir apparaître des métiers nouveaux, finalement. Il y a des conducteurs de drones, il va y avoir maintenant aussi des spécialistes de l'intelligence artificielle, des spécialistes du blockchain, de la crypto-monnaie. Voilà tout autant de barbarismes finalement qui vont créer de nouveaux métiers. C'est quand même ça qui est intéressant lorsqu'on réunit des entreprises et des experts du numérique, c'est de pouvoir un peu voir comment notre monde bouge, comment ça évolue. Et puis moi j'incarne un peu ça à travers ce métier de Scrum Master qu'on pourrait traduire par facilitateur de projet. On est sur des modèles de gestion de projet qu'on appelle des modèles de gestion de projet agiles et qui ont donc inventé d'autres rôles, d'autres fiches de postes et dans lesquels je me suis formé effectivement progressivement suite à l'obtention de mon master ici à Poitiers, le master web éditorial, je tiens à le préciser puisque je ne suis pas seul dans cette salle à avoir obtenu ce master et qui est porté ici à Poitiers depuis assez longtemps. Et donc c'était assez, je pense, original et innovant là aussi comme proposition de la part de Yanis Delmas, notamment avec l'université de Poitiers. Donc vous pourrez le comprendre, je suis un peu un enfant du pays, enfant de Poitiers. Moi, je me suis beaucoup formé d'ailleurs dans un lieu comme celui-ci, à l'espace Mendès France, pour devenir l'expert du numérique que je suis aujourd'hui. Ça fait 10 ans, effectivement, que je travaille dans ce secteur d'activité. Dès l'obtention de mon master web éditorial, j'ai créé d'abord une auto-entreprise qui est finalement devenue une entreprise, puisque j'ai un associé, Benjamin Riva, qui est mon directeur artistique, que j'aime beaucoup, et avec lequel je porte effectivement un certain nombre de projets ici sur le territoire. C'est même un hashtag sur mon LinkedIn. Je parlais de LinkedIn avec mon amie Juliette. Elle prendra la parole juste après pour vous présenter d'autres projets. Mais on parlait de LinkedIn dans justement la présentation qu'on pouvait avoir de nos propres profils. Et moi, j'ai cet hashtag, justement, l'hashtag Glocal. Voilà quelque chose qui me passionne, donc d'avoir des projets finalement qu'on peut penser de façon nationale, internationale, mais avec la particularité d'agir localement. Donc il y a plein de projets qui m'animent et qui me permettent d'agir localement avec, tout en réfléchissant à essayer d'être le meilleur projet du monde. C'est la fabrique du numérique que Juliette vous présentera certainement plus en détail. C'est la 4e année effectivement de cette aventure qui est vraiment extraordinaire. 2 campus, un à Niort, un à Poitiers, bientôt un autre à Angoulême. 2 fois 20 apprenants qui se forment au métier du numérique en 8 mois. C'est un super projet qui est porté depuis 4 ans, ici à Poitiers, à Cobalt, qui est un tiers-lieu dédié au numérique, mais aussi à Niort, en zone prioritaire, au centre du Guéclin. C'est un projet sur lequel j'ai pu intervenir, sur lequel je continue à intervenir, notamment comme intervenant pédagogique. Il y a plein d'autres projets finalement localement sur la création, par exemple, de sites internet, d'applications mobiles, où je peux effectivement accompagner des startups, des porteurs de projets qui sont des artisans, qui sont des restaurants. Il y a finalement pas mal de personnes en local qui peuvent me solliciter et m'amener à ne pas être tout le temps à Paris, puisque c'est le risque, lorsqu'on commence à travailler depuis longtemps dans le domaine du numérique, d'être attiré par Paris, évidemment. On est dans un pays qui est quand même très centralisé. Et donc, on parle de créativité de territoire, mais il ne faut pas oublier la chance que nous avons finalement d'être à 1h20 de Paris, gare à gare. Et quand on a la chance, là comme moi, c'est la chance que j'ai d'habiter en centre-ville de Poitiers, à proximité de la gare, et de travailler également à Paris, à proximité de Montparnasse, eh bien, on est au moins une à deux fois par semaine, c'est mon cas, à Paris. On part à 7h du matin, on revient un peu plus tard, pour aller chercher des missions, quelquefois toujours plus ambitieuses, toujours plus exigeantes. J'ai la chance, là, récemment, depuis un an, d'avoir coup sur coup, effectivement, rejoint deux réseaux qui sont très importants. The Family, qui est un écosystème dédié aux startups en France, certainement un des meilleurs écosystèmes startups en Europe, j'ai pas peur de le dire. Et Open Classroom, qui est tout récemment licorne, 1 milliard de valorisation pour une startup, c'est énormément d'argent à brûler, pour faire une école de formation complètement en ligne qui diplôme effectivement des bacs zéro en les faisant passer à un niveau licence en moins d'un an avec un emploi garanti. Donc c'est assez innovant, assez disruptif comme on le dit quelquefois. Que de la formation à distance avec des mentors une fois par semaine, et j'ai la chance d'être donc professeur dans le cadre de cette école en ligne. J'ai beaucoup parlé de moi. Donc peut-être que ça a suscité des réactions de votre part, ou peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles je suis allé trop rapidement ou trop en anglais. N'hésitez pas surtout à me poser des questions si vous voulez en savoir plus sur ce que c'est que l'accompagnement start-up, sur ce que c'est qu'une école en ligne et sur ce que sont les projets locaux que je peux mener au quotidien.
Bien, merci Arnaud.
De rien.
Alors, des questions, des interrogations? Moi, j'en aurais une, peut-être prendre le temps d'y réfléchir, mais c'est vrai que, puisque le thème, c'est les entreprises, on fait un constat que l'Europe, malheureusement, sur toute cette stratégie, est un peu en retard par rapport à la Chine et par rapport aux États-Unis. Donc si on veut appuyer sur la digitalisation des entreprises, ne faudrait-il pas aussi, mais je te laisse le temps d'y réfléchir, et quel est ton point de vue là-dessus, avoir une certaine autonomie, une souveraineté numérique, comme disent certains, qui ne nous appartient pas aujourd'hui et qui nous échappe d'une certaine façon. Ce qui fait que les données, quand même, qui sont brassées à travers tout ça, sont finalement plus utilisées par d'autres que par nous-mêmes. Voilà. Mais je te laisse le temps d'y réfléchir. Il y a peut-être d'autres questions, d'autres remarques.
Alors, je pourrais certainement.
Et vous présentez quand vous voulez intervenir, puisqu'on enregistre tout ça.
Je ne pourrais certainement pas donner effectivement une réponse clé en main à une question aussi complexe sans prendre le temps d'y réfléchir. Cependant, le fait d'être suffisamment en veille et intéressé par ce sujet me permet peut-être de dégager quelques pistes d'orientation. D'abord, un exemple très concret. Lorsqu'on accueille une start-up donc dans l'écosystème The Family à Paris, donc en général, ce sont des porteurs de projets, 3 personnes, une personne plutôt avec un profil de directeur, un autre un peu plus commercial, un autre un peu plus développeur, qui portent un projet, qui veulent aller plus loin finalement dans la dynamique de leur projet. La première chose qu'on leur dit, c'est que s'ils ne visent que français, ils sont voués à l'échec. Donc voilà, s'ils ne visent que le marché français, ils sont voués à l'échec. Donc on leur dit, revenez quand vous aurez envie de viser un marché monde. Voilà un peu la première chose qu'on leur dit. Donc je pense que ça rebondit un peu sur la question que tu viens de me poser, la question effectivement de ce qu'est le marché maintenant aujourd'hui qu'on peut toucher. On est sur des entreprises très digitalisées et ça touche n'importe quel type d'entreprise finalement. Qui peut très rapidement s'ouvrir le marché international. Et je pense qu'il faut avoir cette vocation, car les acteurs en face de nous l'ont déjà depuis longtemps. La Chine et les États-Unis, comme tu les as cités. On a des structures en France. Moi, j'ai la chance d'avoir un de mes amis d'enfance qui travaille à la Défense pour Business France, qui est effectivement une structure qui aide au déploiement à l'international. Je pense que les CCI, les CMEA, localement font aussi leur travail, que vous faites aussi beaucoup de vulgarisation qui peut aller dans ce sens-là. Il faut saisir cette opportunité grâce aux outils digitaux, effectivement. Un artisan qui fait très très bien son travail en France peut vendre n'importe où dans le monde, 24 heures sur 24. Et ça, c'était pas possible il y a encore 19 ans, disons.
Ouais. Une question.
Francis Ebeke, je suis espérant en Gironto. J'ai participé depuis quelques jours aussi à ces après-midi, quoi. Ma question, elle est centrée sur le diagnostic des territoires. Moi, quand je vous écoute, je dis, mais voilà, une tête qui peut aider à faire progresser la Vienne, et surtout dans nos territoires qui sont aujourd'hui abandonnés. Et un tel outil, pour moi, me semble être une très grande opportunité. Je travaille actuellement sur l'accessibilité des personnes âgées à faible revenu dans le territoire de la Vienne. Et je causais ce matin avec M. Paul Crénou, qui est l'un des responsables santé de la de Civray. Vous vous rendez compte, je ne suis pas français, je suis camerounais, mais je m'intéresse à une problématique qui touche le cœur même de la Vienne Sud. Et là, je me pose donc la question, quand je vous écoute, je dis, mais voilà un monsieur qui peut nous aider à entrer en droite ligne avec tout le diagnostic que nous voulons poser, parce que ma thèse, c'est ça. J'essaie d'interroger le territoire rural. Qu'est-ce qu'on peut apporter dans ce territoire? Monsieur Crenou me disait encore que nous penchons vers le numérique. Nous pensons que c'est par là où on peut vendre notre produit. Et quand je vous écoute parler, j'ai dit, mais voilà encore une piste qui s'ouvre pour pouvoir encore diagnostiquer et décrypter donc tous les mots que nous pouvons rencontrer
au sein du territoire. C'est tout l'intérêt d'une journée comme celle-ci. Et je voyais Jackie également hocher la tête, car c'est un débat que nous avons eu avec les autres intervenants lors de notre déjeuner. On est parti effectivement là pour le coup du cas très concret du Google Challenge Impact, qui est donc une bourse qui a été donnée par la fondation Google et qui a mis en compétition une dizaine là de projets. Il y avait justement un projet très proche du vôtre qui s'intéresse à effectivement la formation de publics plutôt de personnes âgées dans le domaine de la ruralité. Alors en posant des points de médiation ou en ayant des itinérances, il y a beaucoup de projets là actuellement qui vont dans ce sens-là. Non seulement je peux aider, mais j'espère que j'aide activement au présent de l'indicatif, en participant notamment avec la Fabrique du numérique, avec une véritable réflexion, notamment sur les zones prioritaires, mais sur les zones rurales, qui ne sont pas forcément identifiées de la même manière, mais dans lesquelles il y a tout autant quelquefois d'urgence. Donc c'est des personnes qui habitent près de Bressuire, qui habitent près de Parthenay, qui n'ont pas toujours effectivement accès à l'informatique de la même façon que nous pouvons l'avoir, ou à la formation, en tout cas de la même façon qu'on peut l'avoir, eh ben on les met dans les meilleures conditions, à Cobalt, avec des experts du numérique, avec des super formateurs, et au bout de 8 mois, eh bien, ils arrivent à trouver une alternance, ils arrivent à trouver un métier. Je laisse pour le coup Juliette vous en parler beaucoup plus en détail, mais on a plusieurs atomes crochus, moi je suis d'origine camerounaise aussi. Et je suis très intéressé effectivement par... je suis très intéressé effectivement par la médiation du numérique vis-à-vis de tous les types de publics, les femmes, les personnes âgées, les plus jeunes, les décrocheurs scolaires. Et je pense que votre projet aurait tout à voir avec le PNUS, le projet numérique d'utilité sociale. C'est un appel à projet qui est lancé par la Fabrique du numérique, Juliette y reviendra, et qui vous permettrait d'être accompagné par les jeunes de la Fabrique, donc ces jeunes apprenants, pour qu'ils puissent vous aider à la création de votre site internet, de votre communication, dans un premier temps local, et j'espère local très rapidement, si c'est ce que vous désirez. Pas de souci.
Peut-être une question, Arnaud. Quand tu n'es pas sur Paris, on peut te contacter où, à Poitiers ?
Chez Michel. La question, on aurait pu la préparer, comme dans les émissions américaines. La blague était peut-être déjà préparée. Non, elle ne l'était pas du tout, mais c'est vrai que j'ai posé mon bureau à l'intérieur d'un bar. Bon, j'ai la chance de pouvoir être souvent aussi à Cobalt, qui est un super espace de coworking. Mais les espaces de coworking sont des espaces qui sont quelquefois trop silencieux pour moi. Moi, je suis quelqu'un d'assez bruyant. Le fait de vivre avec un casque sur les oreilles, et d'écouter ma musique et d'être derrière mon ordinateur toute la journée ne m'enchantait pas forcément. Et bon, j'ai des très bons copains dans la restauration. J'étais le responsable de communication de ce bar-là. J'ai beaucoup d'affinités car la directrice du lieu est la marraine de ma fille. Et donc, ils m'ont laissé installer mon bureau. Donc, j'ai Internet et c'est vrai, j'ai ma place dédiée. J'arrive comme n'importe qui à 9h le matin, je prends le café avec les gens du quartier, je travaille, je mange entre midi et 2, le restaurant est évidemment fermé l'après-midi, ça me permet de recevoir mes clients et de travailler correctement. Et à 18h30, lorsque l'activité de bar devient trop importante, je vais gentiment chercher mes enfants à l'école et je rentre à la maison.
Voilà. Merci pour l'information, je pense que ça peut intéresser. Et si tu avais un regard sur Poitiers et sur l'écosystème, alors au-delà de Poitiers, du Grand Poitiers et même peut-être de l'ex-région, ça serait quoi les priorités qu'il faudrait essayer de développer ou vers quoi faudrait-il porter, je dirais, le fer ?
Je rebondis encore avec la question qui a été posée à votre intervention. Juste tout à l'heure, là, avant de venir vous voir, il y a une personne que je connais bien qui est un psychologue à Poitiers et qui est maintenant assez âgé, qui est à la retraite, et qui me voit donc souvent chez Michel, puisqu'il est du quartier, donc il vient prendre son café le matin, il me voit toujours derrière mon ordinateur, il me connaît depuis que je suis gamin, et il m'a dit « Arnaud, s'il te plaît, même si je te paye par-dessous la table, je viens chez Michel et tu me donnes un petit cours sur le métier du numérique, et parce que j'arrive même pas à envoyer un mail et une chose comme ça. » Et donc, bon, forcément, c'est des sollicitations qu'on peut avoir assez souvent. Là, c'était assez personnel. J'ai accepté avec grand plaisir. Je lui ai dit « N'hésite pas à passer un matin, on prendra 2 heures, et déjà en 2 heures, on peut débloquer bien des situations. » Mais je pense que la priorité sur le faire, elle est véritablement là. Elle est de plus en plus assumée étatiquement. Je pense que Mounir Majoubi, notamment, avait un appel qui allait dans ce sens-là lorsqu'il était secrétaire d'État au numérique, il y a encore moins de 2 ans, en disant qu'effectivement, il faut former très massivement des médiateurs du numérique, des personnes qui soient dans la transmission, ce sont des jeunes, des moins jeunes, mais qui vont aider, d'autant plus si l'État se dématérialise, si tout se dématérialise, si les entreprises sont en transformation digitale, il faut se donner les moyens en termes de formation, en termes d'accompagnement, effectivement d'avoir des personnes à solliciter. Et ça passe par de l'humain, je ne pense pas que ça puisse se faire avec une intelligence artificielle ou tout autre procédé. Il faut qu'il y ait des humains qui incarnent cette transformation digitale et donc qui soient à notre disposition effectivement pour remplir nos impôts en ligne, continuer à évoluer dans notre société de façon égale.
Une question par ici, et vous vous présentez.
Bonjour, je m'appelle Anthony Roux. J'ai moi-même fait le master web éditorial, mais c'était il y a un siècle, c'était en 2004. Et voilà, là, je suis chef de projet digital dans une entreprise basée à Montmorillon.
Qui s'appelle
L'Alliance Pastorale.
D'accord. Voilà.
Et donc, c'est une entreprise qui compte 120 employés à peu près. Ouais. Donc on a des magasins et on a un grand volet e-commerce aussi. Et puis, on est en mutation, on va dire, digitale, hein, puisque c'est la règle imposée maintenant. Mmh. Et donc, ma question, en fait, c'était, est-ce que, à votre avis, cette mutation, voilà, donc on n'a pas le choix, faut qu'on bouge dans ce sens-là, est-ce qu'elle est nécessairement, elle peut se faire avec des compétences en interne, ou est-ce qu'il y a forcément une intervention extérieure, enfin, est-ce que c'est mieux qu'une intervention extérieure, est-ce qu'il y a une plus grande efficacité à faire intervenir quelqu'un de l'extérieur pour réaliser ce processus-là. Voilà.
C'est une super question. C'est une super question bien technique. Je défends le milieu de la formation. Moi, je suis devenu professeur par la force des choses, vous voyez ce que je veux dire, parce que à la fois, j'aimais m'épanouir à Poitiers, j'étais papa jeune, à l'âge de 25 ans, j'ai mon fils aîné. Je ne pouvais pas partir à Paris comme ça du jour au lendemain, je n'en ai tout simplement pas les moyens financièrement pour l'élever dans de bonnes conditions. Je ne regrette pas du tout mon choix. Mon fils, il est dans une super école, ma fille est dans une super école, et je suis très content d'avoir mes amis ici à disposition. Je suis amené de plus en plus à travailler à Paris, mais pour autant, je pense qu'on peut effectivement arriver à se former localement, à être un acteur localement. Donc le message d'abord très positif que je voudrais donner par rapport à ça, c'est qu'il y a de la formation en ligne, donc effectivement avec de bonnes compétences déjà en interne et avec la volonté de vouloir progresser, que ce soit à travers Open Classroom ou tant de ressources qui sont gratuites en ligne, à partir du moment où on les a bien détectées, on peut travailler effectivement à sa transformation digitale. Maintenant, mon expérience fait que je crois trop à l'intelligence collective et à l'importance de l'utilisateur surtout, je tiens à le préciser, en tout cas par rapport à votre secteur d'activité, hein, qui est celui du digital et du numérique, il faut absolument intégrer de plus en plus les utilisateurs au sein de cette transformation, au sein même de notre gestion de projet, au sein de notre activité quotidienne. La complexité est telle entre l'interface qu'on appelle l'interface homme-machine. Les ordinateurs sollicitent de nombreux sens de l'être humain, et nous avons vraiment besoin d'intégrer les utilisateurs. On ne peut pas juste couper du monde, finalement, réfléchir au projet idéal, réfléchir à la meilleure manière de changer les choses, sans intégrer à minima l'utilisateur au sein de ce processus décisionnel. Bon, c'est un vœu pieux, mais je pense que c'est de plus en plus facilité, de plus en plus les utilisateurs le demandent également. Donc je pense que là, voilà, c'est une bonne orientation. Et après, sur les accompagnements, le SPN est à votre disposition, The Family à Paris, c'est top. Nous, on dit que quand la vague arrive, il faut apprendre à surfer. Voilà. On vous apprendra à surfer. Donc non, il faut bien sûr qu'être accompagné, ça peut... Plus on est de fous, plus on rit.
Merci Arnaud. De toute façon, tu restes parmi nous.
Mais bien sûr.
Hein, donc tu pourras toujours...
J'aurai peut-être des questions aussi.
Exactement, ou des réponses. Et donc, on a évoqué l'État. Et ben, justement, le problème, on est français. Hein. Donc, qu'est-ce que peut l'État pour nous, Monsieur David Adolphe?
à tous. Je suis David Adolphe. Bon, moi, j'aurais une petite présentation voilà, pour appuyer un petit peu mon propos. C'est très administratif. Mais bon.
C'est didactique, didactique.
Voilà, c'est pour mettre un peu plus d'image à ce que je vais dire. Donc, alors, moi, je travaille à la DIREC. Déjà, je vais un peu expliquer ce que c'est la DIREC pour ceux qui ne sachent pas, c'est quoi. Donc, c'est un acronyme, c'est une direction régionale, qui veut dire direction régionale de l'emploi, de la consommation. Le T, c'est travail après et entreprise. Et je crois que j'ai un C qui me manque, mais bon, c'est pas grave. On n'est pas trop souvent habitué à le dire. Bref, c'est une
collaboratif.
Direction... Comment ?
Collaboratif.
Bon, on pourrait dire collaboratif. Donc, en gros, c'est une direction régionale de deux grands ministères, celui du travail et celui du ministère de l'économie. Voilà. Donc, moi, je travaille au sein de cette direction régionale pour le compte du ministère de l'économie et au sein de ce qu'on appelle une mission qui s'appelle Industrie et Innovation. Donc, qu'est-ce qu'on y fait au sein de cette mission ? Eh bien, on travaille pour le compte du ministère de l'économie sur le déploiement donc, des filières stratégiques décidées par le ministère. Chez nous, on en a une dizaine en région Nouvelle-Aquitaine. Moi, je suis spécifiquement chargé de mission numérique et c'est une filière stratégique. Et tout ce qui est aussi lié à l'innovation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un écosystème d'innovation qui, depuis une dizaine d'années, est en train vraiment de s'étendre. Il y a des acteurs qui sont parapublics dedans. Ça va des centres de recherche, tout le monde de la recherche, jusqu'au monde de soutien à l'innovation incarné par ceux qui financent, comme BPI France, mais des clusters aussi qui accompagnent les entreprises. Donc tout cet écosystème-là, l'État est associé pour travailler, pour donner des dispositifs de financement, d'accompagnement, des appels à projets. Enfin, il y a tout un écosystème de dispositifs qui est compliqué à aborder quand on n'est pas dedans tous les jours. Mais en tout cas, on essaye de l'animer, de le faire comprendre au mieux avec nos partenaires. Voilà un peu nos missions. Donc aujourd'hui, je suis là pour parler un peu plus de digital et de transformation numérique. Des entreprises, pour le coup. Là, on s'adresse aux entreprises. Je voulais parler de France Nu, donc c'est le logo à droite. Je vais y revenir. Mais avant de dire ça, je voulais vous présenter un petit peu le panorama quand même global que vous ayez en tête, un peu cette culture de politique publique. C'est que l'État, aujourd'hui, quand il parle de transformation numérique, il y a deux grands axes, en fait, dans les discours. Vous pouvez entendre Bruno Le Maire parler de transformation numérique de l'industrie. Tout ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'industrie du futur. C'est le secteur industriel qui doit se transformer, qui doit se numériser. On entend des termes comme Industrie 4.0, comme la French Fab. Enfin, c'est tous ces sujets-là que vous entendez dans la presse. C'est une politique publique derrière avec des dispositifs. Je ne vais pas les détailler aujourd'hui, mais il y a en tête qu'il y a des financements pour accompagner les entreprises, les industriels à se transformer. On déploie des sortes de vitrines, hein, promouvoir un peu les industriels qui marchent et qui s'exportent et qui ont réussi leur transformation grâce au numérique. Donc tout ça, c'est le volet industriel. Et il y a il est plus ancien, ça fait un petit moment, il change de nom assez régulièrement en fonction des ministres. Mais globalement, c'est quelque chose qui est dans les têtes depuis un petit moment maintenant. Et il y a un nouvel outil, une nouvelle politique publique qui est plus récente. On va encore citer, bah oui, Mounir Majoubi, il y a quelques années, il était au Conseil national du numérique, il a fait tout un élan de rapports, de consultations. Et dans toute cette expertise est sorti le sujet de la transformation numérique des TPE-PME. Derrière ça, on cite beaucoup ceux qui sont à moins de 10 salariés, donc surtout les TPE, les commerçants, les artisans, où il y a des chiffres qui sont sortis. Un tiers, ça m'amène à la slide suivante, où là, je vais vous parler un peu plus maintenant des sujets liés à la transformation numérique des TPE, ses enjeux et des fois des idées reçues. Le principal constat un peu qui a amené à tout ça, c'est qu'un tiers aujourd'hui des TPE-PME, globalement, sont numérisés, enfin ont un outil numérique ou une démarche numérique interne, bref, sur tous ces aspects-là. Et cette importance, cette faible représentation du digital dans le TPE-PME est très décalée et décorrélée, c'est assez impressionnant, on le vit tous les jours, par rapport à nos propres usages du numérique. Aujourd'hui, on a tous des iPhones, on consomme tous sur Internet, on a des usages très très numériques, hein. D'ailleurs, la Redoute, on ne commande plus son catalogue, enfin, il y a des choses vraiment qui nous dépassent. Et les TPE qui vendent, hein, je parle même du boulangerie, d'un coiffeur, il y a vraiment maintenant un décalage qui est de plus en plus important. Et ce décalage est vraiment pas au bénéfice de ces TPE, qui derrière ne deviennent plus compétitives. Et qui demain, une petite entreprise qui a utilisé, qui met en place un outil digital pour conquérir des nouveaux clients, ou même en interne, quand on est plutôt sur la PME, pour se transformer en interne, pour gérer ses clients en interne sur ses bases le fichier, enfin plein de choses, il y a plein d'exemples, eh ben, sera meilleure et sera plus réactive et compétitive par rapport à une TPE qui, elle, sera plus en ligne avec les usages des particuliers, de nous tous, en fait. Donc voilà, il y a ce sujet-là, donc c'est, voilà, je disais, prospection, accès à l'information, consommation. Hein. Aujourd'hui, tout le monde va sur Google pour savoir quand est-ce que le magasin est ouvert. Voilà, s'il n'y a pas d'information, bah, on va à côté, même si c'est ponctuel, hein, ça peut être le boucher parce qu'on est dans le passage dans une ville, bon, bah, voilà. Ça concerne tout le monde. Il y a aussi un sujet, donc là, quand on essaie de comprendre pourquoi il y a un tel décalage, c'est le retard et de la prise de conscience des dirigeants. Voilà, il y a sûrement aussi un frein ou un conflit générationnel, je ne sais pas comment le préciser, mais beaucoup de dirigeants de TPE, de PME disent « le digital, ce n'est pas pour moi. Bon, les autres le font, mais moi, je n'en ai pas besoin. » Le problème, c'est que derrière, c'est attendre, mais c'est dans 5 ans, ce sera peut-être un sujet qu'il devra prendre en compte et il sera peut-être trop tard. Voilà, donc on est un peu dans ce décalage aujourd'hui qu'on constate de plus en plus. Et ce constat, on constate aussi sur les sujets RH et recrutement. Ce n'est pas simplement numérique que pour aller vers des nouvelles parts de marché, pour garder des clients et maintenir son activité. C'est aussi un levier d'attractivité. Il y a une nouvelle génération aussi qui arrive sur le marché du travail, qui est encore plus que nous à l'usage des outils numériques. Et c'est vrai qu'une entreprise qui adopte en interne des outils numériques, bah, elle sera plus attractive pour recruter. Donc il y a un sujet aussi de recrutement des entreprises si elles ne sont pas assez impliquées dans le numérique. Voilà. Il y a aussi ce côté d'image du sujet numérique. Voilà. Quand on ne l'a pas vraiment abordé, on pense que c'est un projet coûteux, très long à mettre en place, un logiciel. Voilà, c'est des mots. Voilà, on a du mal encore à vulgariser le sujet pour ceux qui sont pas rentrés qui sont encore très éloignés. Donc voilà, c'est une image assez ancrée. Et bien sûr, la transformation numérique, ce n'est pas qu'un outil au final. Ce n'est pas qu'un logiciel qui va répondre à un besoin. Et c'est la démarche de France Num, je vais expliquer après. Quand un artisan, une TPE, on l'incite à aller sur la transformation numérique, c'est un moment assez privilégié de se poser. Il faut prendre le temps, parce que ce temps-là est nécessaire, de repenser un petit peu sa stratégie liée au numérique. Donc peut-être qu'au final, ça sera un outil, un CRM, je ne sais pas, un site internet, mais ça peut être aussi des sujets qui sont liés à l'organisation en interne, une ligne de management un peu plus transversale, ou voilà, des questions, parce que souvent, quand on arrive à se dire, bon, bah, la gestion client, comment on s'en occupe, mais en interne, comment on est aussi organisé. Et souvent, quand une TPE-PME engage une démarche de transformation numérique, je vais y revenir après, mais on se fait accompagner. C'est très rare qu'on dise, j'ai trouvé cet outil parce que mon beau-frère m'en a parlé, et je vais le prendre, parce que ce n'est peut-être pas l'outil qui est nécessaire pour votre entreprise. C'est voilà, une image un peu bête, mais vous mettez mamie dans une Ferrari, ça va dans le virage, c'est accident au premier virage, ce ne sera pas aussi performant que le pilote de Formule 1, voilà, c'est ce que je veux dire. Donc peut-être qu'il y a des outils qui sont un peu plus adaptés. Pour ça, il faut vraiment être accompagné. Et comment appréhender l'outil digital? C'est sûr que c'est assez compliqué, et c'est tout l'enjeu de France Num. Donc aujourd'hui, France Num, donc on a créé une politique publique à travers une marque, donc c'est France Num, c'est facile à retenir. Derrière, on fédère une communauté. Derrière la marque, on a une communauté. Aujourd'hui, c'est 1700, demain, ce sera vraiment plus, ce qu'on appelle des activateurs. Donc des activateurs, c'est des gens qui accompagnent, qui ont pour mission voilà, d'être conseillers, d'accompagner les entreprises à la transformation numérique. Voilà, donc c'est ce réseau qu'on a voulu aussi créer parce que voilà, chacun est dans son coin pour faire de la transformation numérique, pour accompagner. Et nous, on a voulu les rassembler dans une marque. Donc aujourd'hui, c'est un enregistrement sur le site internet de France Num. On s'identifie, puis on peut être activateur. Et bien sûr, France Num a ce rôle de valoriser au maximum les initiatives qui sont faites sur tout le territoire de transformation numérique. Donc que ce soit les entreprises qui ont passé le cap. Donc là, on fait des reportages vidéo, des fois. Je ne sais pas s'il y a une connexion Internet sur le PC. Je vais vous montrer après. On a fait un témoignage de l'entreprise Camif, qui est dans la région, qui a fait sa transformation numérique. On valorise des initiatives locales, des événements. On a une très forte visibilité sur les réseaux aujourd'hui. Voilà. Et notre démarche, elle est partenariale. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui 30 partenaires au niveau national, que ce soit... la CPME, ce soit les CCI, les CMA qui travaillent pour la transformation numérique. On est en partenariat et on valorise et on soutient toutes leurs démarches. Voilà. Et bientôt, on va bientôt mettre en place une offre de financement spécifique, parce que quand on a dit que toutes les bonnes raisons d'aller dans la transformation numérique et que l'entrepreneur est engagé, derrière, il y a le sujet du financement. Et c'est très dur d'aller voir une banque aujourd'hui pour lui demander de financer la transformation numérique parce que c'est de l'immatériel. C'est un manque sur le marché. Donc demain, on aura une offre de financement garantie par l'État. Voilà, les banques seront... il y aura une offre de garantie. Je ne rentre pas dans le détail, mais voilà, c'est encore une brique qui vient s'ajouter au sujet de la transformation numérique. Voilà, donc là, vous avez un peu une page de la plateforme France Num. Donc, on peut obtenir des recommandations. Vous avez bien plein de tutos sur différents types de sujets liés à la transformation numérique. Vous pouvez faire une recherche donc, d'activateur, les personnes que je recherchais, que je précisais tout à l'heure. C'est-à-dire que vous avez un besoin sur la visibilité en ligne. Vous êtes à Poitiers, vous remplissez toutes les petites informations. Enfin, il y en a quatre en haut. Et là, vous avez derrière une liste d'activateurs qui seront là pour vous accompagner dans votre transformation. Et voilà, en dessous la liste. Et bon, le plus parlant, c'est que je vous mette cette petite vidéo, si elle marche, j'espère. Bon, c'est pas grave, vous pourrez aller voir sur Internet. C'est très facilement consultable. Mais j'ai l'impression que ça marche, donc c'est super. Ça dure 2 minutes, mais je pense que c'est toujours mieux d'avoir quelqu'un, une entreprise qui parle de sa transformation. Ah, mais je suis à fond. C'est pas grave, sinon je... Comment ?
On a décidé de relancer...
vous ne voyez pas, vous n'avez pas le son.
Très fort sur la qualité des produits, la fabrication française, quoi? Et le développement durable.
L'écran. Ah, j'ai besoin de...
Avant tout aussi un changement d'organisation et des cultures d'entreprise. Donc on a travaillé pendant 3 ans en mode projet avec une structure... l'entreprise la plus agile possible. On a aussi mis en place à Niort une formation au e-commerce pour pouvoir former des nouvelles recrues à ces nouveaux métiers qui sont le community management sur Internet,
je sais pas si vous entendez mieux,
trafic, le merchandising sur Internet. Et puis au fond, véritablement, on a beaucoup travaillé sur l'humain. Finalement, c'est ça qui est au cœur de la transformation de toutes nos entreprises et le numérique n'échappe pas à la règle. On a été accompagné en 2009 dans la période critique, notamment par BPI qui nous a accordé un prêt participatif. C'était très important pour nous d'être soutenu par un acteur du territoire. La région nous a aussi aidé à la garantie des prêts bancaires, mais l'apport de BPI a été assez déterminant. 3 ans après la relance de la CAMIF sur Internet, on a retrouvé une entreprise rentable. On a également une proposition de valeur qui fait du sens et qui nous permet d'être suffisamment différenciante par rapport à des géants du e-commerce qui sont beaucoup plus gros que nous. À très court terme, on sort une nouvelle plateforme sur camif.fr qui est une plateforme collaborative pour pouvoir réparer, rénover, donner son vieux meuble à un voisin, recycler. Et c'est toute cette palette de solutions qu'on va apporter aux clients qui va faire la différence pour la Camif de demain.
Donc, ce que je voulais dire, c'est que du coup, ça clôture un petit peu mon propos. C'est que cette entreprise-là, qui était initialement du catalogue en ligne, hein, comme la Renault, je disais ça tout à l'heure parce que j'avais cet exemple en tête, aujourd'hui, elle s'est fait accompagner dans sa stratégie numérique. Mais en fait, cet accompagnement lui a fait ouvrir aussi d'autres sujets. C'est-à-dire que là, à la fin, il explique son nouveau projet. Et au début, on ne sait pas. Voilà, on a la tête un peu dans le guidon, il faut se digitaliser pour survivre. Mais en fait, l'accompagnement derrière vient aussi ouvrir d'autres sujets. Et je pense que c'est tout l'intérêt d'une démarche de transformation numérique. Voilà, donc on essaye de valoriser toutes ces démarches qui sont assez diversifiées. Ça passe du boulanger, promouvoir ses produits en ligne et faire du e-commerce derrière, à une PME industrielle qui revoit sa numérisation de son processus industriel. Bon, voilà, c'est assez diversifié. Ouais, de toute façon, j'avais fini à peu près. Bon, là, je voulais vous présenter assez synthétiquement France Num. Ouais, je ne sais pas si vous avez des questions.
Merci. Eh bien, peut-être, oui. Ou des remarques, ben allez-y et vous présentez.
Bonjour, alors moi je suis Marianne Foraban, je suis vice-doyenne de la faculté de droit et en charge de la recherche. Donc moi, mes recherches personnelles et mon domaine de spécialité n'est pas nécessairement le numérique, mais on a quand même plein de gens à la faculté de droit qui s'intéressent au numérique. Et on a, alors première chose, une observation, on travaille, on est en train de conceptualiser et commencer à préparer une thématique de recherche qu'on a appelée NEOP. NEOP pour nouvelle en fait transformation numérique ou transition numérique et nouvelles pratiques professionnelles, afin que les juristes de chez nous s'intéressent sur bien justement les nouvelles pratiques professionnelles venues du numérique et les problématiques juridiques qu'elles posent. Donc évidemment tout ça nous parle beaucoup. Et je voulais prendre la parole pour rebondir sur ce que vous indiquiez, notamment l'accompagnement des TPE, PME à la transition numérique. Et on s'est intéressé à la faculté de droit il y a quelque temps au concept, à l'outil de construction immobilière qu'est le BIM. Peut-être que vous voyez ce que je veux dire, donc la maquette numérique qui accompagne aujourd'hui de plus en plus la construction immobilière, qui est utile à la fois au stade du chantier, pour connaître vraiment avec beaucoup de précision et d'exactitude où se trouve n'importe quel élément de l'immeuble, et qui à terme sera également utile pour toute la phase d'exploitation de l'immeuble. Et on s'est rendu compte qu'évidemment, de plus en plus d'énormes groupes de construction utilisent le BIM, bien sûr. La maîtrise d'ouvrage public intègre le BIM et construit dans le cadre du BIM. Et on a un certain nombre d'artisans, d'entrepreneurs du bâtiment qui ne sont pas ni formés effectivement au BIM, donc ne peuvent pas répondre aux appels d'offres. Et à supposer qu'ils souhaitent y répondre, n'ont pas forcément les moyens techniques et financiers pour acquérir les logiciels, on va dire, et actualiser les logiciels qui permettent de travailler sur la maquette numérique. Donc nous, on est évidemment aussi à l'université, et les juristes sont très très impliqués dans ce genre de questionnement. Et ma deuxième observation, c'est également sur la CAMIF ou sur la question qui était pour une petite entreprise de se lancer dans le e-commerce. Il y a des problématiques juridiques évidemment très importantes, puisque lorsqu'on se lance sur le e-commerce, il y a toute une série de normes venues de l'Europe, hein, pour l'essentiel, qui protègent le consommateur, parce qu'on achète beaucoup plus facilement et sans moins réfléchir, en réfléchissant moins en cliquant sur Internet que lorsqu'on est dans un magasin. Donc il y a aussi, au-delà de la question économique, de la question technologique, il y a des questions juridiques évidemment très, très importantes. Donc là, j'apprends qu'il y aura sans doute des fonds, alors je reviens à mon secteur du bâtiment, des fonds peut-être de l'État ou de la région pour aider les entreprises à se...
Il y a des fonds, sur cette question-là du financement, il y a déjà de l'argent public qui existe. Hein. La région fait des chèques numériques, il y a des collectivités qui mettent annuellement une action spécifique pour faire la transformation numérique. Là, je crois que Brive a lancé récemment une initiative dans ce sens-là. Nous, c'est plutôt une action pour inciter les banques à financer ces dépenses-là. Ce n'est pas de la subvention qu'on va faire, c'est de l'intervention en garantie. Voilà, c'est pour, entre guillemets, rassurer les banques quand elles ont des dossiers de transformation numérique pour pouvoir prêter les fonds. D'accord. Généralement, c'est moins de 10 000 euros. Hein. Ouais. C'est ça. Enfin, sur ce qu'on vise. Hein.
D'autres remarques ? Oui. Et il faut répéter la présentation, je suis désolé.
Et Francis Ebeke, là je prends la parole maintenant comme membre associatif. Je suis en train de monter un projet à l'université de Poitiers avec les étudiants sous forme associative où nous devons faire l'innovation scientifique entre les pays du nord et du sud, vice versa. Le constat que je fais, on parle d'une migration. Le flux migratoire aujourd'hui est d'actualité. Mais on oublie que sur le plan culturel et universitaire, il y a un gros travail à faire. Moi, j'ai des travaux que j'ai réalisés en Afrique qui sont dans les tiroirs. J'ai enseigné en Afrique aussi jusqu'à aujourd'hui. Je découvre que si j'avais ne serait-ce que publié ces travaux, je serais aujourd'hui peut-être connu sur le plan international. Et il me paraît donc indispensable aujourd'hui, je crois qu'au Cameroun, ils ont compris, même nos grands-parents sont à l'école du numérique. Donc mon projet porte sur la valorisation des travaux universitaires, qui est cette migration scientifique. C'est un projet, hein, il est né rien que la semaine passée, mais dans le cadre d'une structure associative que j'ai mis sur pied il y a 2 ans. Donc je voudrais refaire l'objet pour valoriser un peu le savoir scientifique et apporter un peu d'innovation dans la mesure où les étudiants, les chercheurs, qui sont dans les pays du Sud et les pays du Nord, puissent valoriser leurs recherches et se faire connaître. Il me semble que dans ce sillage, le numérique, pour moi, est indispensable et est la matière principale. Donc, quand je vous écoute, je ne peux ne pas pour exprimer un peu ce désir de vous voir déjà un peu, voilà. La deuxième chose, c'est passer de la directe, c'est le même service qui octroie donc l'autorisation aux migrants étrangers à pouvoir travailler.
En lien avec la préfecture.
Peut-être une question aussi, puisque vous représentez l'État. Il y a un autre partenaire pour la Nouvelle-Aquitaine, puisque vous êtes de Bordeaux, c'est la région. Donc comment ça travaille ensemble, l'État et la région, sur ces terrains-là? C'est dans le cadre du contrat de plan, c'est comment? Enfin, voilà, peut-être préciser les choses.
Dans le cadre de la transformation numérique?
Oui.
Dans le cadre de la transformation numérique, on travaille en complémentarité. De toute façon, sur toutes les politiques publiques, le Conseil régional n'attend pas l'État, entre guillemets, pour faire des actions des politiques publiques. Il le fait par rapport aux besoins du territoire. Bon, généralement, ils sont un peu les mêmes dans toutes les régions, donc toutes les régions ont à peu près les mêmes politiques publiques. Et l'État, lui, intervient plutôt dans des axes d'intérêt général vraiment nationaux. La transformation numérique a été prise en compte par des conseils régionaux récemment. Il y a des conseils régionaux où il n'y en a pas du tout. Il y a des régions de France où la transformation numérique des TPE-PME n'est pas du tout adressée. Voilà. Donc le sujet, c'est de se dire qu'à un moment donné, l'État s'est engagé sur la transformation numérique parce qu'on ne pouvait pas attendre que tous les conseils régionaux non plus s'engagent. Donc là, aujourd'hui, en Nouvelle-Aquitaine, eux, ils ont une stratégie aussi de la transformation numérique qui est un peu ciblée sur les PME. Voilà, donc finalement, on est assez complémentaires. On travaille ensemble. De toute façon, il n'y a pas assez d'actes. Enfin, plus on est touché à terre, on est ça. Hein. Plus on est fou, plus on rit. Hein. Sur la politique publique, le Conseil régional a ses réseaux, a ses outils. Ils ont le chèque transformation numérique. Ils ont des filières stratégiques aussi qu'ils essayent de transformer de façon digitale. Donc, ils ont des actions spécifiques, des partenaires privilégiés. Et nous, voilà, on a une initiative, on va dire, pas Nouvelle-Aquitaine. France Nul n'est pas Nouvelle-Aquitaine, elle est nationale. La Nouvelle-Aquitaine s'en saisit comme elle l'entend. On peut être activateur France Num présent en Nouvelle-Aquitaine et en même temps travailler avec le conseil régional sur ses actions propres. Voilà, donc c'est vraiment de la pleine complémentarité. Et il y a des politiques publiques pour faire une similarité où on donne vraiment l'argent, enfin l'État, quand je dis on donne, enfin, l'État ne se positionne pas et c'est vraiment les régions qui s'engagent dans le financement, dans des actions précises. Voilà.
D'accord, merci pour ces précisions.
Laetitia Gatliff, Skill Connection. Alors moi, je complète la question de Jackie. Ayant travaillé dans une TPE industrielle, on voit que les industriels s'adressent plus à leurs OPCO et à OPCAIM, par exemple, pour ce genre de projet, dans le cadre de l'industrie 4.0, puisque la directe, on l'associe au côté réglementaire. Et qu'on a du mal, pour les TPE, à se dire qu'on peut être et accompagné et réglementé et regardé en interne. Alors, le distinguo est compliqué.
Qu'est-ce que vous entendez par réglementer pour être sûr de
C'est toute l'inspection du travail qui est derrière.
Oui, alors c'est un peu notre cheval de bataille de tous les jours. Enfin, c'est vrai qu'on est une administration, on est très mauvais communicant, on ne sait pas trop aussi valoriser nos structures et ce qu'on fait vraiment dedans, à quoi on sert. La directe est très connue en effet par le volet inspection du travail parce que c'est 70% des effectifs et donc sur un public d'entreprise, c'est sûr que vous voyez la directe égale inspection du travail. Et en fait non, il y a 10% de développement économique voilà. Et on travaille avec les OPCO maintenant, c'est vrai aussi sur les aspects formation vous allez voir les OPCO pour avoir des conseils très bien, après l'OPCO aussi après revient nous voir pour faire monter des projets, c'est pas très grave en fait, le plus important c'est que vous ayez la formation la plus pertinente avec avec le maximum de circuits courts. Savoir ce que fait la directe, c'est un long travail. Je pense que ça va être encore plus en plus compliqué avec les réformes, parce que c'est une succession de réformes. Avant, on avait les DRIR, c'était simple, hein. Direction régionale de l'industrie. Alors tout le monde savait ce que c'était. Plus on avance dans les réformes, plus on fait une seule maison unique, et quand on dit, enfin, guichet unique plutôt. Mais derrière, c'est la lisibilité est très compliquée. Et on est très mauvais là-dessus. Ça, je le dis sans problème, voilà. Mais bon, après, si vous avez un partenaire privilégié pour vous faire conseiller et qu'après on travaille ensemble, voilà, on s'en sort.
Bien, merci monsieur Adolphe, merci de votre présentation. Comme vous restez parmi nous, de toute façon, vous pouvez participer à ces échanges. Et on va faire appel maintenant à monsieur Michel Janet, qui va nous parler aussi un peu du milieu rural. Alors on en parlera aussi tout à l'heure, je pense, il y a les quartiers aussi, hein, il y a les zones défavorisées, mais là, on va en milieu rural, c'est pas toujours très favorisé non plus, c'est un peu éloigné de tout. Et donc, je vous laisse vous présenter votre démarche en tant qu'association égalité numérique et haut débit.
Oui, bonjour, Michel Janet. Je suis retraité. J'ai créé cette association il y a un peu plus de 2 ans. À la demande de mes voisins, on m'a demandé d'expliquer les réseaux télécoms entre la fibre, le cuivre, le satellite, la 4G, des réseaux très haut débit. Les gens étaient un peu perdus. Donc on a créé cette association et on est dans un milieu vraiment, vraiment rural, très faible densité. Je crois que la moitié de la population n'est pas soumise à l'impôt. Et donc il y a un réel besoin de les aider à passer au numérique. Je vais essayer de... Si ça veut bien... Voilà. Donc je vais passer assez vite, je crois que j'ai un quart d'heure. Hein. Yes. C'est bon. Voilà, donc alors ce que nous apportons, c'est on fait de l'information sur Internet, les infrastructures, les usages, les sources d'information. Notre, j'allais dire, notre clientèle comme association, c'est les plus démunis, les toutes, toutes petites entreprises, les artisans. On fait de l'aide à la demande à des particuliers et on est intervenu sur les petites mairies pour leur expliquer quels sont les outils de l'État pour aider les communautés de communes. On participe au PLU, on participe au schéma départemental d'accessibilité aux services publics. Voilà. Alors on fait une veille informationnelle, on fait beaucoup de salons pour essayer de bien comprendre ce qui se passe. On anime des réunions publiques en mairie et dans les organismes, et on aide au cas pour cas. Je passe rapidement sur nos partenariats. Grosso modo, on a l'approche du conseil du numérique sur on suit. Donc, on n'a pas dans notre association de vocation à pondre des idées. On est simplement transmission de gens qui ont réfléchi, de diffuser, parce que le problème des milieux ruraux, c'est d'avoir l'information. C'est l'isolement. Donc, ce n'est pas évident de comprendre tout ce qui se passe. Alors, je suis en Charente, il y a la Charente Libre qui donne de l'information, mais on a besoin quand même d'être parfois plus synthétique. Voilà. Alors, il y a un certain nombre de guides sur lesquels on s'est inspiré pour vous faire cette présentation. Bon, il y a France Num, on en a parlé. Il y a le guide de l'ARCEP qui est à l'extérieur, que je vous ai apporté, qui pour une TPE-PME, mais pas les artisans et pas les toutes petites entreprises, il fait 80 pages actuellement, c'est comment je peux choisir une offre télécom. Je suis une petite entreprise, comment je choisis une offre télécom, à qui je m'adresse, quels sont les critères. C'est vraiment un guide d'achat. Voilà, je vous me permets de citer 3 études, si les personnes sont intéressées sur la rupture pour les sociétés. La rupture numérique, vous avez l'AFNIC, vous avez l'étude SAGE. SAGE est un éditeur de logiciels pour les petites entreprises, avec OpinionWay qui vient de sortir une étude qui explique un peu les problèmes des entreprises, qui sont tout à fait intéressants. Et puis vous avez une étude pour essayer de convaincre les gens de passer sur le numérique, c'est l'étude de France Stratégie sur les bénéfices d'une autonomie numérique. C'est donc un peu j'essaye en un quart d'heure de ressortir les 2-3 idées de ces documents. Alors, les difficultés du numérique en milieu rural, d'abord, la première idée, c'est que le monde rural, c'est différent du monde paysan. Aujourd'hui, donc en 1946, ce n'était pas le cas, il y avait 35% de la population qui était donc des paysans. Aujourd'hui, le monde paysan, c'est 2% de la population française, c'est 53% du sol. Et au sein du monde rural, c'est 19% d'agriculteurs. Donc, il y a, dans le monde rural, il n'y a qu'une personne sur 5 qui est du monde agricole et éleveur. Donc les difficultés du monde rural, ce n'est pas, on ne peut pas résumer ça aux difficultés du monde de l'agriculture. Il y a entre autres une grosse difficulté, c'est l'accompagnement des personnes âgées et toutes les aides sociales qui peuvent exister dans la campagne. Alors, il y a, comme vous l'avez signalé, il y a la prise de conscience des dirigeants, ça a été signalé par David précédemment, et le manque d'accompagnement, parce qu'on est dans des zones isolées, et donc trouver quelqu'un qui s'y connaît en informatique quand on a un poste qui est en panne, c'était le cas de la petite épicerie de mon village, 1500 personnes. Elle n'a pas trouvé quelqu'un qui vienne la dépanner sur sa caisse enregistreuse. Elle a fait ça en y passant énormément de temps. Alors, il y a quatre difficultés. Il faut avoir des réseaux, il faut avoir de la connexion en campagne. Alors, on a tous entendu parler du plan haut débit, etc. Je vous résumerai la situation telle que je pense. Elle est vécue en campagne. Il y a le surmonter le manque de compétences techniques de proximité. Je vous citais le cas donc, de cette petite épicerie qui voulait un informaticien. Quoi. Elle n'en a pas trouvé en proximité. Il faut changer les habitudes, et ça vous en avez parlé, et le process. David l'a expliqué tout à l'heure, donc je ne reviens pas dessus. Et puis, il y a un problème de financement, comme on peut s'en douter. Alors, sur les réseaux, vous avez tous entendu parler des réseaux fixes, de l'annonce qui a été faite par le président de la République, je crois, donc 8 mégabits en 2020 pour tout le monde, pour tous les Français, et 30 mégabits en 2022 pour tous. Alors, je ne vous détaille pas la différence entre 8 mégabits et 30 mégabits. Si vous êtes, pour faire très simple, si vous faites deux, si vous n'êtes pas dans des métiers qui font beaucoup, beaucoup de numérique, 8 mégabits, on survit. Si vous êtes une famille nombreuse avec 4 enfants, plus un petit commerce à côté, là, ça commence à pédaler pas mal. Alors, je vous ai parlé des 5 types de connexions. Faut savoir que chaque département a son plan. Donc, si vous voulez savoir quand la fibre arrive chez vous, vous devez avoir sur... Alors, je ne me suis pas renseigné sur la Vienne, mais sur la Charente, on a un site où on peut se renseigner quand est-ce que la fibre arrive chez moi. Alors, c'est donné, selon les indications du site, au trimestre près ou à 9 mois près. Une petite subtilité entre disponible et disponible à la demande. Je n'ai pas le temps d'expliquer ça. Et il y a pour les gens qui auront la fibre trop tard ou qui n'auront pas les 8 mégabits, on va parler d'usage, hein, donc un débit correct, un bon débit, je reprends les termes, ou un très bon débit, il y a des aides. Hein. Il faut savoir que si vous avez besoin, vous pouvez quand même, en vous renseignant, trouver de quoi vous payer une antenne sur le toit et avoir le satellite payé. Voilà, pour ce qui est de l'accès en mobilité, donc il y a une politique qui s'appelait le New Deal. Bravo pour l'administration qui défend la langue française. Donc c'est le déploiement de la 4G. Alors c'est, grosso modo, c'est le long des grandes voies de circulation. Il y a un objectif de population en pourcentage de population qui est imposé aux opérateurs. Ce n'est pas en surface du territoire. Hein. Donc il faut toujours dire, ça couvre une partie de la population, mais pas du territoire. Et à ma connaissance, il n'y a pas d'indicateur de couverture en nombre de kilomètres carrés. Je crois que c'est une demande de l'Association des maires ruraux d'avoir un peu cet indicateur qui n'existe pas. Il y a une obligation de passer de la 3G à la 4G. Et puis, il y a une procédure couverture ciblée. Si vous êtes paumé dans un endroit, sachez que le préfet, à l'aide des élus locaux, peut demander ou faire imposer aux opérateurs la construction d'antennes suite à la fameuse procédure ciblée, pour reprendre la couverture ciblée, ça ne marche pas très bien, mais sachez que moi, ce que j'encourage au niveau de mon territoire, je vous laisserai dire un petit mot tout à l'heure, je vous encourage au niveau de votre territoire à essayer de repérer qui appartient à la commission que le préfet a créée. Il faut savoir qui appartient, et là, il faut faire une belle lettre en disant sur ma portion à moi, nous avons une zone blanche, etc., etc. Il faut y aller, il faut demander. Il n'y a que ceux qui demandent qui ont. Donc ça, cette procédure n'est pas très connue, elle marche peut-être pas très bien, il faut la remonter, il faut la faire savoir, il faut la faire connaître. Enfin, il existe des réseaux pour les objets connectés, très utilisés dans l'agriculture. Je dirais un petit mot à la fin. C'est des réseaux qui ne sont pas grand public, qui existent. Et je n'en dirai pas plus, parce que dans le quart d'heure qui est imparti, on ne va pas trop plonger dessus. Donc, la première préoccupation pour le monde rural, c'est quand même les réseaux. Alors, On entend tous ce que je vous ai dit, 8 mégabits en 2020, 30 mégabits en 2022. Sachez que j'étais à une conférence sur l'AVICA, qui est une grosse association des villes françaises, etc. Tous les experts sont persuadés que la couverture sera mitée. Il y aura des trous. Donc il y a une petite partie de la population qui... Mais c'est compliqué, hein, c'est difficile, c'est difficile à faire. Sachez que le réseau cuivre téléphonique, avec l'obligation que l'État a imposée d'avoir le service universel pour le téléphone sur le cuivre, n'existe pas pour le numérique. Vous n'avez pas de service universel d'avoir 8 mégabits chez vous. Donc il y a un objectif qui est donné, mais qui n'est pas une obligation légale. Ça ne vous empêche pas, si le 31 décembre 2020, vous n'avez pas 8 mégabits, de faire une lettre recommandée au président de la République, au préfet, au syndicat mixte de votre département, en disant, mais attendez, on m'avait promis ça. Il faut y aller. Vous avez, pour le choix des différentes solutions locales, vous avez un guide qui fait 80 pages, qui est donc à l'extérieur. Et nous faisons un travail avec une grosse association nationale, la FUT, pour en faire un petit résumé de facile à comprendre par un artisan, enfin, facile à digérer par un artisan ou une toute petite entreprise. Alors, là, je vais faire un catalogue qui vaut ce que ça vaut, qui est très très partiel, de quelques usages dans le monde rural. Alors, on a comme partout des usages pour la gestion des entreprises. Il y a d'abord l'accessibilité aux services publics, donc il faut du débit et il faut des connexions qui marchent. Et en attendant, il y a des lieux pour le faire. Nous avons dans notre association un viticulteur qui a fait un petit vin de pays qui a été primé à la foire de Paris. Donc quelqu'un qui est tout à fait valable. Et sa connexion à Internet par satellite marchait pas bien, etc. Ça a été la galère pour qu'il fasse ses déclarations au temps voulu vis-à-vis de l'administration. Et là, il y a quand même un souci. Je pense que lorsqu'on est dans une zone où on n'est pas dans un désert, on arrive quand même à aller au café du coin et à faire sa déclaration. Là, j'ai vu une étudiante qui n'arrivait pas à faire son dossier en temps voulu et qui est partie faire 35 km pour trouver un café ouvert le soir, parce qu'elle n'était pas pendant arriver la journée. À 9h, 8h, tout est fermé aux alentours. L'accessibilité des services publics, donc la notion d'espace, de maison de service et de tiers-lieux, qui peut être dans le monde rural une solution vraiment intéressante. Sur les progiciels, il y a une grande offre et je ne reviendrai pas. Et là, je crois que le site France Num peut peut-être aider à trouver des solutions. J'avais une petite entreprise que l'on a aidée qui avait son système de comptabilité qui n'a pas marché. Ils l'ont mis finalement sur un système, la gestion est sur le cloud. Donc ils n'ont plus de sauvegarde à faire, ils n'ont plus de s'il y a un problème, ça se fait à distance. Il y a des solutions qui sont vraiment intéressantes. Il faut avoir un débit correct quand même, hein, pour ce genre de gestion. Et ça, il faut les aider. Les toutes petites entreprises et les artisans, il faut les aider parce qu'ils ne trouvent pas la solution tout de suite. Notre association cherche à les aider dans ce domaine. Alors ça a été, je crois, détaillé aussi par David précédemment. Sur la partie commerciale, il y a ce que dit l'étude SAGE, une réelle amélioration possible pour donner du numérique dans ces territoires ruraux, avec des actions de publicité pour créer du trafic et puis un bon référencement, ce que les gens ne savent pas toujours gérer. Mais là, il y a une offre quand même qui existe. J'étais étonné pour les sites web. J'ai trouvé en campagne des gens qui disent si on a des gens qui font des sites web et qui aident aussi à la gestion du référencement. Là, l'offre n'est pas trop mauvaise. Pour ce qui est des processus plus techniques de production, je pense à... Alors là, je suis un peu centré sur la production agricole, mais ça doit être pareil pour si vous travaillez dans l'industrie du bois ou si vous travaillez dans d'autres... votre industrie de transformation, vous avez la robotique, la maintenance assistée par ordinateur, vous avez l'aide à la décision, Vous savez que les agriculteurs qui reçoivent des informations sur l'état des terrains, sur le climat, etc., peuvent dire ben, je moissonne ce champ aujourd'hui plutôt que de moissonner l'autre champ, parce qu'ils ont eu une aide à la décision pour faire leur planning. Il y a le co-farming, partage d'équipements. Les équipements informatiques sont, les équipements pour l'agriculture sont très chers. Je crois que le moins de tracteurs, c'est plus de 100 000 euros. Je crois que c'est très très cher. Et la moyenne des tracteurs vendus sur le marché, ils ont 100 capteurs à l'intérieur. Ça veut dire que c'est des machines qui commencent à être quand même bien connectées et bien pratiques. Il y a les rapprochements avec le consommateur. Ça, c'est grâce au numérique, hein, les circuits courts et la traçabilité. Je vous raconterai deux petites histoires à la fin, si j'ai le temps. Et il y a la création de valeurs de données. Je vous donnerai... Ah oui, alors, bah, je vais vous la raconter maintenant. L'exemple anglais, il y a un éleveur anglais qui a mis des puces sur ses vaches et qui calcule le nombre de temps où les vaches sont à l'extérieur en train de paître et d'être dans un environnement vraiment naturel. Et il fait un certificat par informatique, hein, disant que ces vaches sont vraiment dehors, et il vend son lait 10 centimes de plus par litre, parce qu'il a pu, commercialement parlant, prouver que son lait était vraiment de meilleure qualité. Et je vous prends l'exemple chinois, qui est encore plus drôle. Vous avez, là c'est une information orale, j'espère que j'ai bien pris mes notes, je l'ai eu hier. Vous avez un agriculteur chinois qui a mis à chaque poulet une puce et qui lui a mis un podomètre. Il sait le nombre de pas qu'il fait et il certifie de vendre ses poulets ayant fait 1 million de pas. Et il vend 3 fois le prix du poulet grâce à ce système-là. Donc le numérique peut aider à valoriser vos produits grâce à une traçabilité et grâce à des expériences comme ça. Voilà, mais il faut avoir la compétence locale, ce qui n'est pas toujours... Alors je vous fais une petite piqûre de rappel sur les tiers-lieux, parce que ça me paraît relativement intéressant. Et je fais dans les quelques minutes avant de me faire engueuler par Jackie, dans les quelques minutes avant qui me reste, bon, de parler des objets connectés. Parce que dans le secteur de l'agriculture, il y a quand même beaucoup de choses. Alors, secteur collecté, si vous mettez un capteur, hein, il faut quand même de quoi prendre l'information entre le capteur et le système, la gateway, pour parler français. Donc, le concentrateur. Ensuite, il faut le mettre dans des serveurs et avec de l'intelligence pour analyser. Et il faut restituer, présenter l'information, soit à la personne, au l'agriculteur qui prend sa décision, soit éventuellement à un automate qui déclenche l'arrosage, qui déclenche le dosage au bout de son tracteur de la bonne quantité de désherbant, etc., etc. Ça, c'est le schéma sur les objets. Alors, je vous ai parlé de, grosso modo, il y a le suivi de la traçabilité. Il y a eu un cas, oui, des tas de clôtures. Pareil, ça ne coûte absolument pas cher. Quand vous avez de l'élevage et que vous avez une clôture qui pète, vous retrouvez vos vaches, vos moutons, vos chèvres, et ça c'est une perte d'exploitation, c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie. Donc il y a des capteurs qui disent la clôture est cassée. Ça ne coûte pas cher et ça peut être très rentable. Vous avez la traçabilité, ça j'en ai parlé. Vous avez sur les cultures les relevés de température, d'hydrométrie, d'humidité, d'analyse du sol, des parcelles derrière les tracteurs. Il y a des analyses qui font le pourcentage de mauvaises herbes, etc. Et tout. Et vous avez derrière les tracteurs, bus par bus, qui font, ça fait 10 mètres. Hein. C'est très 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 long. Hein. Vous avez tous les 10 cm la bus qui délivre exactement la quantité de produits calculée d'après les analyses qui ont été faites, soit par les photos de drones, soit par des passages sur les machines. Donc il y a dans l'agriculture, dans les zones rurales, il y a par l'apport du numérique un réel avantage. Alors sur les IoT, il y a un problème d'énergie, il faut quand même les alimenter, hein. Les objets connectés, pardon, je devrais parler français, les objets connectés. il y a la sécurisation des informations, parce que si votre fermier voisin a envie de vous embêter et qu'il est un petit peu malin en informatique, il peut complètement bousiller votre système informatique et lui se récupère le chiffre d'affaires que vous auriez dû faire. Donc il y a un problème de sécurité. J'ai des exemples dans le sud de Charente d'un agriculteur où on lui vandalise ses capteurs. On les casse, on les... Donc il y a quand même un petit souci. Il y a la sécurité. Alors, il y a un point, c'est la propriété des données. Ça, c'est un point qui est un point, nous avons une juriste, donc elle va pouvoir réagir. Vous savez que lorsque vous achetez un tracteur, donc je vous ai dit, il y a des capteurs, dans tout l'appareillage, il y a des capteurs. Et aujourd'hui, l'information remonte gratuite aux constructeurs de matériel qui arrivent à les traiter, comme Google, etc., et qui doit pouvoir revendre les datas aux assureurs, aux gens qui font de la prédiction sur... les prix du marché, etc., etc., etc. Donc, il y a aux États-Unis une expérience intéressante d'une boîte qui cherche à dire aux agriculteurs, vous avez deux moissons, vous avez la moisson de produits agricoles et la moisson de data. Il faut que vous vendiez les deux. Mais bon, la personne que j'ai vue hier, qui est très haut placée à la FNSEA, nous a dit, en France, c'est perdu. Donc, la FNSEA a fait un guide d'éthique que je n'ai pas récupéré, si j'aimerais bien le récupérer, qui, lorsqu'on achète un tracteur ou un objet connecté, on demande que le fournisseur fournisse ce guide d'éthique en disant mes datas seront utilisées que proprement. Et si jamais le fabricant est racheté par des Chinois, alors vous ne me remontez pas mes données pour ne pas les donner aux Chinois. Voilà sur les besoins d'interconnexion de protocoles. Alors, il y a un professeur à Poitiers qui a fait une expérience très intéressante sur les quatre principaux capteurs d'humidité, je crois, ou de pluie, température, quatre capteurs voilà. Mais chaque capteur a un protocole pour remonter l'information qui est pas normalisé. Donc on est enfermé chez un constructeur et on n'arrive pas à s'en sortir. C'est vrai que sur les téléphones, on est arrivé à normaliser les chargeurs. On n'est plus obligé d'acheter le chargeur dans telle marque ou dans telle autre. On arrive un peu... Là, je pense que dans tous ces objets connectés, on a encore des procédures et des normes à mettre pour que ça puisse se développer. Alors, je me permets de dire quel est notre retour à nous, petite association. On pense qu'il y a besoin dans le monde rural, il y a besoin de réseaux fiables et couvrant tout le territoire. Je pense que pour développer les entreprises, il faut absolument cette obligation. Il faut des offres stabilisées de matériel, d'application et d'adapter. Alors, dans l'agriculture, il y a beaucoup d'offres hein, sur les logiciels, le matériel et tout. Si vous avez, pour ceux qui montent à Paris, l'occasion d'aller au salon de l'agriculture qui va bientôt avoir lieu, il y a une, si pour les enfants ça peut les amuser, mais pour vous avez une partie dédiée au salon de l'agriculture sur l'agriculture numérique et vous pouvez aller voir la ferme digitale qui vous donne des exemples de ce que peut être l'activité qui est vraiment, vraiment intéressante. Vous avez des compétences de proximité, il faut quand même qu'il y ait un maillage de fournisseurs sur le territoire de compétences de proximité. Et il faut que l'offre aujourd'hui, au moins dans la partie télécom, n'ait pas tronçonné. Aujourd'hui, vous avez les opérateurs télécom, vous avez les vendeurs d'équipements, les vendeurs de logiciels, et vous avez des sociétés qui font ce rôle d'assemblier. Il semblerait, d'après quelques études, là, je n'ai pas noté le nom de l'étude, qu'il faudrait... Pour des gens dont le métier, c'est pas faire de la technique quand vous êtes agriculteur ou que vous êtes en pleine... Ce n'est pas de faire de la technique, ce n'est qu'un outil. Il faut que les outils arrivent intégrés et que vous n'ayez pas à vous battre entre votre fournisseur de réseau, votre fournisseur informatique. Ah ben non, c'est pas eux, c'est pas l'autre, enfin, c'est pas leur job. Voilà sur les difficultés du monde rural telles qu'on les aperçoit, mais c'est une vision très, très partielle.
Bien, merci, M. Jeannet. Donc, les questions sont possibles. des remarques.
Oui. Moi, j'ai une question pour la chance d'avoir une juriste dans la. J'aimerais bien que vous ayez. J'aimerais bien avoir une juriste et un communicant pour reprendre les textes juridiques sur les circuits courts. Vous êtes fermier, vous voulez vendre vos yaourts, vos trucs comme ça. Alors, il y a un site qui est pas mal fait, qui donne les textes qu'il faut faire. Il y a 6 ou 7 pages ou 8 pages, etc. Il faudrait qu'un communicant nous fasse un papier rigolo à lire avec une petite vidéo, un truc, parce que c'est un petit peu dur à lire. Hein. C'est 15 pages. Lorsqu'on est agriculteur, on n'a pas très envie de s'enfiler 15 pages de juridique. Donc, c'est un appel à la bonne volonté pour travailler sur le sujet.
Je vous donnerai la...
Francis Ebeke, je suis tellement bavard aujourd'hui. Les exposés sont tellement intéressants que je salue déjà l'apport, hein, l'ère numérique. Aujourd'hui, si vous étiez au Cameroun, on vous appellerait grand-père Android, pour dire que c'est la jeunesse qui s'intéresse aujourd'hui au numérique. Et j'étais très surpris de toutes les informations que vous nous donnez. Et là, je vous ai vu encore en géographe de la santé. Quand on parle de la santé, ce n'est pas seulement une affaire de maladie. Vous aviez tout à l'heure ressorti tout le travail que je voudrais vraiment entreprendre au sein de l'Université de Poitiers, qui est la géographie de la santé, où il est question de faire un diagnostic, comme vous aviez fait tout à l'heure, l'analyse des inégalités. Et tout à l'heure, vous aviez évoqué l'une des inégalités, qui est le numérique pour les territoires ruraux. Nous avons été au cœur de la géographie rurale. Cette géographie qui nous interpelle chacun et chacune de nous, sachant que nous sommes issus quand même non seulement d'un territoire, mais aussi de la ruralité. Et tout ce qui vient de la ruralité n'est pas toujours de l'agriculture, vous l'avez montré, mais c'est aussi cet espace où il fait bon vivre aussi. Mais je me pose la question que je me suis toujours posée, quand on regarde le monde aujourd'hui, est-ce qu'on peut rentrer encore en arrière? Chez moi en Afrique, c'était le tam-tam qui communiquait. Aujourd'hui, la grand-mère qui est au fond là-bas utilise quand même le téléphone. Quand vous regardez nos assemblées, même à l'église aujourd'hui, à la mosquée, tout le monde a le téléphone. On se demande, est-ce qu'on peut encore, que faisaient nos grands-parents dans le domaine de la communication? C'est pour dire, nous sommes tous transformés aujourd'hui. Je dirais même des malades, entre guillemets, de ce système qui s'impose en nous aujourd'hui. Quand quelqu'un arrive à perdre son téléphone, il l'anéantit. Combien de divorces il y a eu à cause du téléphone? Combien de mariages il y a eu à cause des téléphones? Donc le numérique vient bouleverser nos mœurs et nos habitudes. Au point où on se demande, est-ce qu'on peut encore rentrer 20 ans, 30 ans, 50 ans en arrière?
Oui, juste pour l'agriculteur que je connais, qui fait partie de notre association et au conseil d'administration, il me dit, moi j'ai pas le temps. Alors il se débrouille un petit peu, sa femme l'aide, il fait l'essentiel, mais il me dit, moi j'ai pas le temps de me former, et quand je serai à la retraite je me formerai, mais j'ai pas le temps. C'est difficile de faire un métier autre que très éloigné du numérique et d'avoir en même temps à se former. Donc la solution, c'est d'avoir des prestataires et des gens qui aident à communiquer simplement sur ces problèmes-là. Il est intéressé par les circuits courts et il faut lui mâcher le travail, lui dire, ben voilà, il y a une plateforme qui permet de le faire facilement, juridiquement, voilà, en deux trucs, et ça ne soit pas écrit en termes juridiques.
Bien, donc je me représente, Marianne Forabad, première vice-doyenne chargée de la recherche à la faculté de droit de l'Université de Poitiers. Alors, première chose sur l'aide à cet agriculteur pour communiquer sur la réglementation en fait en matière de circuits courts. Sachez qu'à l'Université de Poitiers, à la faculté de droit, on a quand même une équipe de juristes spécialistes en droit rural, et il n'y en a pas beaucoup en France. Hein. Il y a deux gros pôles, c'est Poitiers, et puis le second essentiellement, c'est Dijon. Donc on a vraiment un pôle très important et historique sur le droit rural à Poitiers. Et dans ce cadre-là, mes collègues, dont je vous communiquerai les noms, mais particulièrement le professeur Benoît Grimont-Pré, travaillent avec des étudiants dans le cadre de projets tutorés. Lui, son but, c'est de faire travailler des étudiants plutôt de licence, parce que le droit rural, on le fait, c'est une spécialité, on le fait en master ou en doctorat. Donc lui, son but, c'est de faire travailler des jeunes de licence sur le droit rural ou des problématiques de droit rural afin qu'ils s'y intéressent. Et dans le cadre de projets de tutoré, la rédaction d'une note de quelques pages pour vulgariser et simplifier la réglementation applicable aux circuits courts, par exemple, c'est quelque chose qui pourrait tout à fait rentrer. Et ce genre de projet tutoré, on a plein d'idées à l'université et on a besoin d'idées comme ça pour que ça se croit. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, sur la question de la propriété des données, oui, c'est une question très importante qui, en termes juridiques, pose de difficultés parce que le droit de propriété en droit français est conçu, son histoire, c'est qu'il porte sur une chose corporelle, sur une chose que l'on peut toucher, qui a une réalité dans le monde physique. On connaît des propriétés sur des choses incorporelles, comme les propriétés intellectuelles, par exemple le droit d'un auteur sur son œuvre, mais ce sont des propriétés très réglementées et on n'a pas de concept aujourd'hui ou de règles qui organisent la donnée comme une chose, objet d'une propriété qui puisse être personnelle. Donc on a bien un règlement pour la protection, vous le connaissez, le RGPD, règlement général pour la protection des données, qui a quand même avancé dans la protection de l'individu sur ses données personnelles, mais ce n'est pas une propriété au sens où on peut tout interdire, tout faire, décider, etc. C'est un règlement qui permet d'encadrer les choses. Mais effectivement, la question se pose. Et ce qu'il faut faire comprendre aussi aux individus, c'est que lorsqu'ils acceptent ou qu'ils contractent sur une plateforme ou une Dropbox quelconque, etc., dans un service gratuit, c'est pas vraiment gratuit. Bien sûr, c'est pas vraiment gratuit. Et pourtant, on le pense, puisque la version premium, on se dit, ah là, il faut payer. Donc ça veut dire que la version non premium est gratuite. Mais non, parce qu'il y a effectivement la mine d'or que constituent les données personnelles. Donc oui, c'est une réflexion, mais c'est que juridiquement, en termes de fondamental, hein, il y a vraiment un questionnement sur ce qu'est la donnée. Et je terminerai juste là-dessus, c'est que du coup, la propriété des données pose la question de la donnée, des data centers, hein, pose la question de la transformation numérique et de la transformation ou transition environnementale. Hein, et ça, c'est vraiment lié, c'est difficile de penser transformation numérique sans penser transition énergétique. Et d'ailleurs, dans le cadre du contrat de plan État-région, puisqu'on en a parlé récemment, la région Nouvelle-Aquitaine a retenu trois priorités, trois axes prioritaires. Il y a évidemment la transformation numérique, mais il y a immédiatement la transition énergétique et environnementale et la santé. Et je dis ça parce qu'il y a à la fois, par exemple, là, j'ai lu récemment un rapport de l'Institut du développement durable, un livre blanc, dans lequel on lit que la transition numérique, la transition environnementale ne peut pas se faire sans la transition numérique. Et en même temps, on a un rapport de l'ADEME, de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui dit attention à l'impact environnemental de la question du numérique. Et nous allons organiser en 2020, sans doute en septembre, une journée d'études à l'université sur les villes intelligentes. Et ça, c'est vraiment au cœur du raisonnement. Faire une transformation numérique qui, en même temps, ne soit pas trop lourde sur l'environnement.
Merci pour cette précision. D'ailleurs, on parle de fermes de données dans certains pays, et des pays axent tout leur développement sur ce domaine-là. Hein.
Bonjour. Béatrice Boyer, porteuse de projet sur un tiers-lieu sur Châtellerault, qui va s'appeler Mon Village. Je suis un peu hors cadre, un peu hors sujet, mais... Je voulais rebondir sur le terme tiers-lieu que monsieur a prononcé, parce que justement, nous, on veut en faire un, et on veut faire de l'inclusion numérique dans ce fameux tiers-lieu. Et justement, la question qu'on se posait, en fait, c'est qu'on a vraiment très peu d'informations sur comment procéder, à part éventuellement la CAF qui fait quelque chose, donc au niveau étatique, là-dessus. Et on voulait aussi créer comme des sortes de satellites justement dans le milieu rural, et c'est pour ça que j'interviens maintenant, parce que moi je suis en zone blanche, donc au niveau rien qu'au niveau téléphone, alors je vous parle même pas d'internet. La 3G est arrivée il y a un an, ils ont commencé à installer la 4G, mais il y a énormément, enfin c'est vraiment très très récent, quoi, ça a deux mois même pas. Tant qu'il n'y a pas d'orage, c'est-à-dire que s'il y a une antenne qui pète, c'est bon, on n'a pas de connexion, ni internet, ni téléphone, ni rien du tout. Ce qui fait qu'on est vraiment mais blanc, blanc, blanc. Et la question moi, que je me posais, c'est vraiment comment on peut arriver justement à faire... Alors, on n'est pas dans le domaine voilà, au niveau des entreprises, malgré le fait que nous, on a envie d'être en lien avec elles. Mais vraiment, nous, la question qu'on se posait est à la fois au niveau environnemental et au niveau des usagers et au niveau des entreprises, comment on fait justement pour que tout le monde soit lié en réalité. Parce que c'est ça la question qu'on se pose vraiment, quoi. On a l'impression que chacun est cloisonné et qu'il y a la ville d'un côté, le rural de l'autre. Comment faire des ponts, comment arriver à inclure tout le monde là-dedans, quoi. J'espère que j'ai été assez claire.
Sur la couverture des réseaux, je crois qu'il y avait une volonté quand même de pas mal de départements d'aller chercher les usagers isolés. Mais il faut savoir que vous avez 5% des usagers, les isolés, qui représentent plus de 30% d'un projet de déploiement pour un département. Donc 95% représentent 70% du coût, et 5% des usagers isolés représentent 30% du coût. Et donc la question, c'est qui va payer la longueur c'est ce qu'on appelle les raccords longs. Voilà. Oui. Mais c'est quelque chose. Moi, la seule chose que je peux dire, c'est qu'il faut que tous les élus. Alors, pour ce qui est du réseau fixe, la fibre, si vous me permettez l'expression, c'est plié. Ça, il y a eu des plans qui ont été faits, etc. Et tout. Donc là, il faut se renseigner sur le plan et il faut voir quand est-ce que vous serez couvert. Il faut savoir que. Pardon? 2022. À ce moment-là, vous pouvez dès le 2. Voilà. Ah oui, mais alors dès 2020, vous pouvez dire je veux 8 mégabits. Ça a été promis. Donnez-moi des subventions pour mettre une antenne sur mon toit et me payer ma box, etc. Les subventions sont de 150 par le gouvernement et le département parfois en rajoute. Donc, vous n'avez pas de cadre juridique qui dit j'ai le droit, contrairement au téléphone qui est un service universel. Vous avez quand même vu la communication qui a été faite. En 2020, vous pouvez dire je n'ai pas 8 mégabits, faites quelque chose. Alors là, il faut. Vous avez sûrement un syndicat mixte qui s'occupe du déploiement dans votre département, que je ne connais pas. Je ne sais pas qui s'occupe du déploiement.
C'est Madame Saint-Pé, enfin en tant qu'élue, qui est conseillère générale et du Haut-Poitou. Donc il y a un contrat d'ailleurs commun entre la Vienne et les Deux-Sèvres.
La Vienne et les Deux-Sèvres. Donc voilà, il va y avoir une structure. Et là, il faut lui dire, OK, on peut très bien comprendre. Le déploiement de la fibre, on fait en 10 ans ce que nos ancêtres ont fait avec le cuivre en 70 ans. Donc il y a une charge de travail gigantesque. Il y a des pénuries de fibres, il y a des pénuries de main-d'œuvre. Les pénuries de fibres, ça va mieux, mais il y a des pénuries de main-d'œuvre qui arrivent pour le déployer. Donc c'est gigantesque et on peut tous comprendre que tout le monde ne peut pas avoir la fibre en même temps. Donc il y a des plannings et c'est vrai que lorsqu'on est élu, on peut comprendre qu'on cherche à satisfaire le plus grand nombre de personnes. Il y a un risque, comme je le disais tout à l'heure, il y a un risque qu'il y ait des trous, qu'il y ait des oublis, Il faut faire remonter l'information et en tant que particulier, vous ne pouvez pas vous adresser à l'ARCEP, l'autorité de régulation, mais vous pouvez vous adresser à votre syndicat mixte et puis sur l'ARCEP, vous pouvez peut-être envoyer un message sur l'ARCEP en disant mais faites remonter l'information parce que même si j'étais moi, en responsable de déploiement, je ferais forcément des choix, il y aurait forcément des gens mécontents, hein. C'est difficile, mais il ne faut pas hésiter à remonter l'information.
Michel, je te remercie pour cette présentation. C'était hyper instructif sur le milieu rural. Alors moi, je suis un pur citadin, hein, donc évidemment, je me sens quelquefois un peu moins concerné par cette problématique. Mais pourtant, j'ai toute ma belle famille qui est en ruralité, donc je prends beaucoup de plaisir. Je n'ai même pas le permis, donc je prends le plaisir à ce qu'on m'amène quelquefois jusque dans des endroits près de Châtellerault dans lesquels effectivement on ne capte pas et je trouve ça très très embêtant. Mais je voulais rebondir sur une question qu'on trouve autant en ruralité que quelquefois en milieu urbain, qui est celle effectivement de cette intégration, là tu le disais, d'antennes ou de postes haut débit au centre d'un endroit ou d'un territoire et qui ont des causes quelquefois aussi là, de santé qui sont dévastatrices. Je veux dire, est-ce que toi, tu sens remonter aussi des informations comme ça en ruralité ? Parce que nous, clairement, on voit des associations en ville qui disent ah non, ne m'installez pas l'antenne ici 3G, 4G, 5G à venir, parce que j'ai un enfant en bas âge et que potentiellement, on a tous des box chez nous qui sont tout aussi dangereuses. Mais on le sait très bien, ça développe, on le sait, maintenant il y a des études qui sont très très concrètes à ce niveau-là, qu'il y a des risques de cancer, qu'il y a des risques de déformateurs endocriniens, enfin, il y a beaucoup de choses qui sont terribles par rapport à ça. Est-ce que tu as des remontées comme ça en réalité où les gens, finalement, c'est le Wi-Fi à tout prix, la 4G à tout prix, eu égard les risques de santé que ça peut aussi comporter?
Alors, je suis incompétent techniquement pour bien te répondre dessus. Il y a une agence nationale des fréquences radio, la NFR, que tu peux, comme simple citoyen, tu peux lui demander, je veux que vous veniez dans mon domicile et je vous demande de faire une étude. Tu as une antenne qui s'est installée pas loin et tu as le droit, toi, de dire, je veux une étude. Il y a des normes avec des limites et il peut y avoir des équipements mal réglés, il peut y avoir comme ça. La deuxième élément de réponse, c'est qu'il y a dans la population une petite partie, alors j'ai pas de bon ratio, j'ai peur de vous dire des bêtises, mais je pense que c'est de 1 ou 2 de personnes qui sont très sensibles aux ondes. Et j'ai une amie qui ne peut pas dormir à côté de son portable, elle le met loin, elle peut pas se mettre près d'une antenne parce qu'elle se sent mal. Il y a une petite partie de la population, je sais pas si vous avez des chiffres, mais moi je les ai eus passer, mais j'ai une très mauvaise mémoire.
Les personnes électrosensibles, on dit.
Le fait aussi qu'il y a un problème de réseau et donc que les portables ou autres captent mal, ça peut aussi, enfin ça crée aussi des soucis supplémentaires parce que justement le portable est en permanence en train de chercher en permanence et ce qui fait que c'est peut-être pas plus nocif, mais bon, ça a aussi des conséquences assez importantes.
Merci. Moi, je peux seulement vous conseiller, je suis incompétent pour répondre, allez sur le site de l'ANFR. Et puis, sachez que comme citoyen, vous pouvez demander une étude particulière dans votre logement si vous avez une antenne qui s'est construite et que vous ne vous sentez pas bien.
Bien, merci Monsieur Michel Janet. Vous restez parmi nous. Je crois que vous avez peut-être une contrainte vers 5 heures, mais je pense qu'on...
Oui, c'est ma femme.
Oui, oui.
Vous allez.
Bon, la contrainte peut être source de créativité, alors ça va. Bien, Yaël Jacquet-Déez, je ne sais pas si je prononce bien votre nom. Mais je vous invite à venir. Vous êtes fondatrice de la start-up IT for Girls. Voilà. Mais je vous laisse le soin de prononcer et de présenter surtout clairement ce que c'est. Oui.
Est-ce que je peux faire ça? Ça marche aussi pour l'enregistrement? Alors, rebonjour à toutes et à tous. Donc, Yaël Dehaz, moi j'ai créé une start-up qui s'appelle IT for Girls. Et donc, comme on parle d'entreprise et aussi d'intrapreneuriat et de digital, et ben, je crois que je suis à la croisée de ces trois chemins. Alors, donc moi je suis un pur produit Société Générale. Je suis arrivée dans ce groupe, dans cette entreprise il y a 20 ans. Donc, j'avais 13 ans. J'étais un peu plus âgée. Et en revanche, j'avais fait un constat assez terrible. J'ai d'abord travaillé en salle des marchés et je m'étais aperçue que dans ce milieu-là, donc dans la finance de marché, il y avait peu de femmes. Et puis ensuite, j'ai évolué et je suis allée dans un autre département qui était l'IT, l'informatique du groupe Société Générale, ce qu'on appelle les DSI, et là encore peu de femmes. Qu'est-ce que j'ai constaté? Dans le groupe Société Générale et dans la plupart des grandes entreprises françaises, c'est assez équilibré. Nous, par exemple, on était à 59% de femmes, donc jusque-là, tout va bien. Et puis ensuite, quand je suis arrivée dans l'IT, donc dans les DSI du groupe, là, on arrivait à 25% de femmes. Et puis ensuite, dans tout ce qui était équipe de développeurs et développeuses, et là, c'était même à peine 10% de filles. Vous me direz, c'est pas très grave, hein, y a des métiers d'hommes, il y a des métiers de femmes. Et par exemple, l'informatique, c'est plutôt les hommes. Et ben moi, ça me gêne un peu. Pourquoi ? Parce que autant quand j'étais en finance de marché, y avait peu de femmes, mais je me suis aperçue que tout ce qui était finance de marché, justement, c'est en train d'être régulé et c'est des endroits où on va licencier des gens, et vous en avez sûrement entendu parler. Autant dans l'IT, dans tout ce qui est informatique et technologie, et si vous êtes là aujourd'hui, c'est justement parce que vous avez senti qu'il y a un enjeu, eh ben on recrute. Et donc je me suis dit, un secteur porteur qui est en train de se construire sans les femmes, eh ben moi ça me gêne. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire ? Et donc là, bah, y avait plusieurs choses. D'abord, moi, ça fait longtemps que j'étais donc dans ce groupe, et puis je m'étais aperçue que la banque finance, c'est pas un endroit où les femmes vont s'épanouir assez facilement. Donc, je m'étais dit, quoi faire ? Et bien, déjà, se regrouper, se fédérer entre femmes. Et donc, j'avais rejoint le réseau de femmes du groupe Société Générale. Dans la plupart des grandes entreprises, vous constaterez qu'il y a des réseaux de femmes. Et donc, ça faisait 5-6 ans que j'étais dans cette association de femmes. Et puis, on faisait des ateliers de développement personnel, de prise de parole en public, de refaire son CV, de réseauter, de promouvoir ses compétences pour essayer de briser ce fameux plafond de verre qui existe en entreprise. Hein, et donc moi, je militais et j'étais très active au sein de l'association. J'en suis aujourd'hui la secrétaire générale. À côté de ça, dans le département où je travaillais, donc ce qui était l'infra du groupe Société Générale, donc les gens qui s'occupent du réseau informatique, donc vraiment la base, on mettait en place déjà des ateliers de coding à l'attention des enfants dans le cadre de ce qu'on appelle les Family Day ou Journée des parents. Et là encore, quand on mettait en place ces ateliers de coding pour les enfants des collaborateurs, eh ben sur 10 places, j'avais 10 garçons. Une fois, j'ai eu une fille qui est venue parce que son frère était malade et le parent ne voulait pas perdre la place, il a envoyé la fille à la place. Donc je me suis dit, comment faire pour que on ait dans des ateliers de coding, et puis finalement plus tard aussi, des femmes dans l'informatique. Pourquoi ? Bah parce qu'on a dit c'est l'avenir. Et que moi, j'avais envie que l'avenir se construise, que les algorithmes qu'on construise demain soient construits par des équipes avec de la diversité et pas toujours sur le même modèle que je cite souvent par les hommes blancs, hétéros, valides. Idéalement, je voudrais un peu plus de diversité là-dedans. Et donc, j'ai eu une idée. Donc, la solution, qu'est-ce que serait la solution pour apporter plus de mixité dans la tech ? Eh bien, ce seraient des ateliers ciblés, c'est-à-dire des ateliers de coding ou d'informatique, hein, de sensibilisation et d'initiation à l'informatique qui seraient 100% filles. Alors, ce que j'ai fait d'abord, comme toute personne qui veut monter une start-up et étudier un projet, c'est que j'ai étudié le marché. Donc là, c'est ma fille, Clémence, qui a 9 ans aujourd'hui, mais on est allé dans tous les ateliers de coding qui étaient proposés en région parisienne, et à chaque fois, effectivement, on constatait qu'elle était la seule fille dans tout l'atelier. Donc moi, j'ai dit, bah, c'est simple, on va proposer un atelier de coding et on va dire, bah, c'est à l'attention des filles, des enfants, des filles, des collaborateurs. Et là, c'est un atelier, c'est le premier atelier qui a eu lieu dans le groupe Société Générale, très précisément à l'est de Paris, là où la nouvelle technopole du groupe s'est construite. Et donc, j'ai dit à mes collègues informaticiens, vous avez des filles, et ben c'est l'occasion de les amener, de leur faire découvrir l'entreprise de papa, hein, puisque on a dit que c'était plutôt des collègues hommes. Et donc là, j'ai vu arriver les filles de mes collaborateurs, et on a fait le premier atelier de coding. On en a fait plusieurs, et la bonne nouvelle, et sinon je ne serais pas là, c'est que ça a fonctionné. C'est-à-dire que aucune des petites filles de 7 à 8 ans qui étaient présentes dans l'atelier ne m'a dit « Madame, ça ne m'intéresse pas. C'est trop compliqué, c'est pas pour moi, l'informatique, le code, ça m'intéresse pas. » Alors, bien sûr, hein, au fur et à mesure des ateliers, on a accueilli aussi des garçons. Là, c'est moi qui anime l'atelier. On a accueilli des garçons parce qu'il y a aussi des garçons qui voulaient se former, mais on a fait en sorte qu'on ait au moins autant de filles que de garçons. Et donc, on a proposé aux filles, avant les biais, c'est-à-dire avant l'âge de 12-13 ans, on s'est aperçu que c'était vers 12-13 ans, l'entrée au collège à peu près, où elles se disaient oh « non, les maths, c'est pas pour moi, l'informatique, oh non, c'est vraiment pas pour moi ». Donc, il y a une période où elles sont OK pour faire tous les métiers. Et on le sait bien, si vous avez autour de vous des enfants qui ont des petites filles qui ont 8-10 ans, vous verrez bien qu'elles sont OK pour faire tous les métiers. Donc, nous, on était d'accord pour proposer des ateliers dès qu'elles savent lire, donc à partir de 7-8 ans à peu près. Et donc, on en a fait énormément. Ensuite, donc, au départ, on a formé les filles. Et puis là, après, les grandes, les parents, il y avait aussi des mères, hein, qui amenaient leurs filles, bien sûr. Les collaboratrices de Société Générale m'ont dit, mais nous aussi, on veut apprendre à coder. Nous aussi, Yael, on veut savoir ce qu'est ce langage qu'on appelle Python, le C, Ruby, Java, tous ces langages, nous aussi, on veut les comprendre. Et donc, j'ai fait des ateliers pour les filles au départ, pour les femmes, et aussi pour les gens, les hommes, qui étaient tout simplement non-tech. Parce qu'il y a aussi des hommes qui ne sont pas tombés dedans quand ils étaient petits, qui se disent qu'il y a un truc qui est en train de se passer et qui ont encore plus honte de le dire que les femmes femmes qui, de façon décomplexée, disent de toute façon, moi, j'y comprends rien. Alors, au contraire, donc, nous, on a amené tout le monde. Comment on a fait ? Alors, il y a un truc incroyable qu'il faut que vous sachiez, c'est que le MIT, le Massachusetts Institute of Technology, a développé il y a quelques années un logiciel libre, c'est-à-dire en open source, où là, tout de suite, vous tapez scratch.mit.edu et vous tombez dessus. Et ce logiciel, il est génial parce que d'abord, il est dans toutes les langues, il est accessible. Maintenant, il suffit d'avoir une connexion à Internet et vous pouvez créer des algorithmes en déplaçant des blocs de couleurs. Donc, vous n'avez pas besoin de parler anglais, vous n'avez pas besoin de connaître le code et de façon assez intuitive, vous pouvez construire des films d'animation, des jeux vidéo, tout un tas de petits programmes qui vous font comprendre les bases de l'algorithme. Le plus, c'est qu'il est donc accessible partout. Il a été développé, il est utilisé dans la plupart des collèges. Nous, bien sûr, on aimerait le proposer à des enfants dès le CP, pourquoi pas, CE1, on va dire, dès qu'ils savent bien lire. Et par contre, ce qui est terrible et ce que j'ai constaté en proposant ces ateliers, c'est que, alors même que Scratch et l'algorithmie est au programme du brevet des collèges et est tombé à l'épreuve de maths l'année dernière, il y a des élèves, et donc on parlait de fractures numériques, qui n'y ont pas accès. Il y a des collèges où ça n'est pas enseigné. Et donc, on propose à des élèves aujourd'hui de 3e des épreuves auxquelles ils ne sont pas capables de répondre. D'accord ? Donc ça, c'est une injustice totale. Je ne sais pas qui en a conscience. Moi, je suis du point de vue de l'entreprise et du parent, donc je fais ce que je peux. Mais j'ai l'impression que là, il y a une fracture numérique terrible qui est en train de se creuser en termes d'accessibilité. Et ensuite... la bonne nouvelle, c'est quoi ? Elle est un peu agressive, cette slide. Je vais revenir sur l'autre. La bonne nouvelle, c'est quoi ? C'est que j'ai donc développé ce projet à la Société Générale. Et puis, on parlait d'entrepreneuriat. Et moi, j'ai envie de parler aussi d'intrapreneuriat. Qu'est-ce qui s'est passé dans les grands groupes ? Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et je ne sais pas si vous aurez l'occasion de travailler, si vous êtes aujourd'hui dans des grands groupes. Il se trouve que, afin de développer l'attractivité, les patrons, les dirigeants des groupes mettent en place des programmes donc d'intrapreneuriat où là, on propose aux collaborateurs, qui a une idée, de présenter un projet interne et l'entreprise va financer le projet du collaborateur. Et donc moi, je suis allée voir le comité de direction du groupe Société Générale au cours d'une séance de pitch, d'un concours de pitch. Et donc là, j'ai proposé mon idée, IT for Girls, de créer des ateliers de coding à l'attention des enfants, des collaborateurs et notamment des filles. Et j'ai été sélectionnée et pendant 6 mois, j'ai eu des collaborateurs à mes côtés, le financement pour créer une start-up interne. Et donc, fort de cette expérience que j'avais développée au sein du groupe Société Générale, je suis allée parler de ce projet à toutes les entreprises que vous voyez ici sur ce slide et toutes ont trouvé que c'était une idée géniale. Il y a quand même quelques entreprises, type Oracle, qui m'ont dit « Écoute, nous, on est des femmes ingénieures. Ce n'est pas la Société Générale qui va nous apprendre à coder. Je vais vous avoir raison. » Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Du coup, je les ai formés à la pédagogie. Donc, j'ai fait du train the trainer et je leur ai dit, ce que je vous propose, c'est de mettre en place votre propre programme d'atelier de coding. Et donc, je les ai formés à la pédagogie. Et ensuite, elles ont mis en place leurs propres ateliers. Moi, j'ai créé une start-up qui s'appelle IT for Girls. Elles ont créé un programme interne qui s'appelle Oracle for Girls. Et moi, j'aimerais bien que toutes les entreprises, et c'est un peu mon call to action, que toutes les associations, que tous les organismes développent leurs propres ateliers de sensibilisation à l'informatique et à la technologie. Moi, je vous accompagne, je vous forme. Et aujourd'hui, on a réalisé plus d'une centaine d'ateliers. On a formé 1300 personnes. Sur ces 1300 personnes, on a formé plus de 75% de filles. On en est à 79 exactement. Et l'idée, c'est ça, c'est que moi, je vous explique comment utiliser Scratch, quel discours on peut avoir à l'attention des femmes. Et du coup, vous développez votre propre programme. Et pourquoi je parle d'une pédagogie et d'un discours adapté ? Je vais vous expliquer. Au début, quand j'ai voulu mettre en place ces startups, moi, je ne savais pas coder. Enfin, je savais coder un peu, mais je ne connaissais pas Scratch. Donc, j'ai fait appel à une autre startup qui s'appelle EvoluKid, qui donne des ateliers de coding et que j'avais testé. Et je dis, on n'a qu'à faire appel à un des formateurs et puis il va venir animer mon atelier. Et là, vous avez Pierre, 50 ans, des années dans l'informatique, qui dit à mes petites filles de l'âge de 7 ans, « Alors, les filles, on va aller sur le bureau et on va télécharger les éléments graphiques. » Aller sur le bureau, les filles, elles ne savaient pas ce que ça voulait dire. Peut-être monter sur la table, je ne sais pas. Télécharger, c'est un verbe qu'elles ne connaissaient pas. Les éléments graphiques, on avait perdu tout le groupe. Mais il n'y en a pas une qui le disait. Et là, j'ai dit, Pierre, stop. De la même façon, la start-up EvoluKid m'avait proposé de faire un atelier en disant, on va faire une battle de robots sumo. Non, on ne va pas faire une battle, ni de robots, ni des robots sumo. On va faire, par exemple, un labyrinthe où on va essayer de libérer une licorne. Et ça, les petites filles de 8-10 ans, pardon pour le stéréotype, mais elles voulaient venir délivrer la licorne. Et en fait, on a codé, bien sûr. Et donc, la façon dont on s'exprime à des filles de 7-10 ans, à peu près, ça ne peut pas être « viens encoder un bras de robot ». Ça ne peut pas être ça, le discours pour les attirer. Donc, moi, je pense qu'il y a une façon, il y a du marketing à faire pour attirer les filles dans l'informatique. Il faut faire l'effort. Je pense que ça vaut le coup. Surtout que, comme je vous l'ai dit, elles aiment bien ça. Et entre nous, un atelier 100% filles, on va plus vite et plus loin qu'un atelier mixte ou 100% garçons. Parce qu'en plus, elles sont studieuses, elles sont méthodiques, elles sont rigoureuses, et l'informatique, c'est beaucoup ça. Donc, j'ai envie de dire, allons-y. La conclusion, ce serait quoi? Mon call to action, ben, je l'ai dit, ce serait de proposer dans chaque entreprise, mais dans chaque organisme, dans chaque association, là où il y a des filles, là où on a envie voilà, de récupérer, j'aime bien cette affiche du coup, récupérer les femmes dans le numérique, des ateliers de coding. Donc si vous avez ce besoin, si vous avez cette envie, je suis sur les réseaux sociaux, je suis sur Twitter, je suis sur LinkedIn, n'hésitez pas à me contacter et moi je viens soit vous parler du projet, soit animer des ateliers pour vous, parce que je pense que le monde de demain doit se construire avec les hommes, avec les femmes, tous ensemble. Merci.
Merci Yael. Bien. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des réactions?
Moi, j'ai une question, une remarque et une réaction en même temps. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Juliette Loriol, responsable pédagogique, Fabrique du numérique. On poursuit le même combat. Il faudra qu'on discute. J'essaye de faire venir des filles dans la formation. On est nous-mêmes formatrices largement en infériorité par rapport à nos collègues, n'est-ce pas Arnaud? C'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Tout à fait, je veux bien, merci.
Oui.
Bonjour, je m'appelle Marie Chenu, je suis en master ergonomie et psychologie du travail. Je fais mon mémoire sur les startups justement. Et du coup, on va dire sur les conditions de travail dans les startups, et on est intéressé donc sur la répartition homme-femme dans les, dans les startups donc. Et sauf que nous, alors là, ça va être plus théorique. Ce que je vais vous demander, c'est qu'on cherche des chiffres, des statistiques justement sur cette répartition homme-femme dans vraiment dans ces organisations spécifiques. Je voulais savoir si où on peut en trouver. Parce que sur l'INSEE, j'en ai pas du tout trouvé. C'est vraiment très difficile pour en trouver.
Bah, je pense que là, je vais peut-être, on va repasser le micro à nos deux collègues qui sont là parce qu'ils ont des réponses. Mais sinon, moi, ce que je peux te dire, c'est que pour lancer ma start-up, j'ai été incubée chez ce qu'on appelle un incubateur de start-up. Donc tu connais ce terme, j'imagine. C'est des pépinières. Hein, donc là, tu peux faire la liste. Tu peux taper. Les dire dans Google, dans Ecosia, parce qu'on essaye de chercher d'autres moteurs de recherche plutôt green. Tu peux taper donc sur Internet incubateur de start-up et puis tu les contactes en disant quels sont vos chiffres par rapport aux start-up que vous incubez depuis 5 ans, quelle est la répartition homme-femme parmi les start-up. Moi, par exemple, j'étais chez MakeSense, un incubateur de start-up à impact. Et donc, pendant les 6 mois que j'ai passé chez eux, bah, je peux te dire que la répartition de start-up dans la répartition homme-femme dans les startups de MakeSense, c'était 50-50. Pourquoi? Parce que c'était des projets à impact, donc avec une thématique environnementale, par exemple. Et dès qu'il y a une thématique autour de sauver la planète, les femmes sont là. Tant mieux. Voilà. Après, quand tu vas dans des incubateurs de start-up qui sont plus autour de fintech, tu vas avoir plus de garçons. Donc je pense que, comme dans les métiers d'aujourd'hui, tout dépend du secteur d'activité. Mais ça peut être une source.
Bon, sinon, très concrètement, il y a France Digital. C'est l'association des start-up en France, enfin une des associations des start-up en France, mais qui est assez représentative en termes d'adhésion. Et ils font des études annuelles sur les profils des start-up, ce qu'elles font, leurs profils, voilà, même les niveaux d'études et tout. Et sinon, en complément, mais il y a la French Tech qui a fait un rapport annuel une fois en 2017, qui était issu d'une étude aussi sur le nombre de start-up. C'est là qu'on avait sorti le chiffre de 10 000 start-up en France. Mais globalement, le chiffre, c'est 15-20%. De femmes dans les start-up. Globalement, c'est à peu près ça.
L'information la plus récente, là, c'est avec l'ouverture sur le Next 40. Donc, on a essayé de, sous l'impulsion de la French Tech, justement, il y a les 40 start-up les plus importantes de France qui ont été listées. Et à travers cette nomination, il y a eu des prix qui ont été décernés, notamment les prix de la parité, de l'intégration, etc. Et donc là, c'est certainement les ressources ou les données les plus fraîches que tu pourras avoir à ce sujet-là. Moi, j'en profite aussi pendant que j'ai la parole pour te féliciter parce que c'était un super pitch de start-up et, et on a envie de signer à la fin et de partir effectivement avec toi à l'aventure. J'ai travaillé dans une ancienne vie 2 ans pour l'éducation nationale, ici en local, pour le réseau Canopé, anciennement CRN, CNDP. Pour le coup, il faudrait absolument arriver à faire de ton projet presque une association reconnue par l'éducation nationale. C'est très très difficile, mais ça serait certainement une solution énorme pour pouvoir permettre à des... aux banques actuelles dont tu as parlé. C'est très très difficile, mais tu as la puissance d'un grand groupe derrière toi et voilà, tu as été super bien accompagné jusque-là, donc je te fais confiance pour y arriver.
Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Mais de toute façon, vous êtes dans la... Pardon. Ok. En tous les cas, merci. Merci de votre présence. Et donc, non, on enchaîne d'ailleurs en respectant un peu ce qui vient d'être dit. Juliette, à vous.
Un petit peu ce qui est intéressant en fait, dans le fait que j'intervienne en dernier, c'est que on est sur
est-ce que le micro est nécessaire, je suis pas sûre.
Oui, ouais, c'est qu'on est nous sur une dimension un peu solution. Ouais, merci. On est sur une dimension un peu solution à la fabrique du numérique dans la problématique notamment de la numérisation des entreprises. Nous, on essaye d'être sur une dimension qui soit globale, une approche globale. Notre idée, à nous, en tant que centre de formation, c'est de proposer donc du personnel aux entreprises qui soient évidemment quand même en mesure d'être qualifiées. Donc nous, on forme des gens à 3 métiers du numérique. Donc on forme sur des postes de développeurs web, sur des postes de gestionnaire de contenu et de communauté et sur des postes de techniciens parc et réseau informatique. Dans un premier temps, on était très parti vraiment dans une dynamique de poursuite d'études. On donne des compétences de base et ensuite nos apprenants poursuivent à l'issue de la fabrique, poursuivent sur une formation type un BTS en alternance, un retour à la fac, des formations qui leur permettent d'approfondir leurs compétences et on les pousse au maximum à partir sur de l'alternance. C'est vraiment notre objectif premier. On a parfois, dans à peu près 25% des cas, des gens qui finalement sortent sur des contrats aussi. Pourquoi ? Parce qu'on a un travail très important qui est fait sur tout ce qui va être insertion professionnelle et notamment tout ce qui touche à l'attitude, à la posture, à la confiance en soi, à la communication et à la capacité de travailler en équipe. Alors, comment est-ce qu'on s'organise au sein de la fabrique ? Pour vous expliquer un petit peu ce qu'on fait, donc, zapette suivante. Donc ça, le menu, j'y reviendrai, je vais vous présenter la formation. Donc nos spécificités pédagogiques, parce qu'on a quand même une organisation qui est un peu particulière et innovante. Et je vais vous présenter tout ça. Alors, notre formation dure 8 mois. On commence là début décembre et la semaine prochaine, on a nos étapes de recrutement. Information collective, entretien, test logique. Mardi sur Poitiers, jeudi sur Niort. À l'heure actuelle, on est sur 2 campus. Et très bientôt, on sera sur un 3e campus, sur Angoulême, à partir du mois de mai. On est une formation gratuite. La plupart de nos apprenants sont indemnisés par la région, donc ont une indemnisation tout au long de leur parcours chez nous. Ceux qui ne sont pas indemnisés région sont des gens qui sont indemnisés Pôle emploi. Donc, formation indemnisée et gratuite. D'accord. La région nous finance à 70% et dans le cadre du plan investissement compétences, voilà, offre une formation gratuite pour nos apprenants. On leur fournit le matériel, donc on leur prête un ordinateur pour la durée de la formation, tout ce qui va bien, hein, tableau, vidéoprojecteur, etc., évidemment. Nos partenaires historiques sont donc le SPN, Réseau du professionnel du numérique, l'IUT, les Petits Débrouillards, qui font aussi des interventions régulières chez nous, et l'École de la Deuxième Chance, Charente et Poitou. Notre public, on cherche des gens qui soient inscrits comme demandeurs d'emploi, qui soient majeurs, évidemment motivés, et en termes de niveau d'études, on est sur du public qui est soit titulaire d'un diplôme infrabac, soit non diplômé. On prend jusqu'au baccalauréat inclus, tout type de bac, et des personnes qui auraient un cursus de reconversion professionnelle, un projet de reconversion professionnelle, et qui donc auraient un diplôme qui ne leur permet pas de travailler, puisqu'ils ne veulent plus travailler dans ce secteur-là. Donc on est vraiment très ouvert. Ce qu'il faut savoir, et c'est là où on apporte un peu notre pierre à l'édifice en termes de numérisation et d'entreprise, pour répondre à la thématique d'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on cherche des gens qui soient en mesure de prouver leur motivation. Donc des gens qui seraient déjà capables de réparer un peu leur ordinateur ou qui géreraient déjà la page Facebook de leur association, qui savent faire des choses sur le plan personnel, mais qui se débrouillent. C'est-à-dire des gens qui, derrière, n'ont pas les bases théoriques, etc., mais qui, voilà, pratiquent un peu. C'est vraiment notre public prioritaire. Voilà. Alors après, au niveau du cadre, on est assez rigide. Hein. Ça fait partie de l'apprentissage chez nous, de la vie en entreprise, puisqu'on va être très exigeant en termes de gestion des absences, de retard, de prévenir en cas de retard, de respecter les horaires, de respecter un planning. On apporte, voilà, on a une structure, un cadre qui est rigide, mais on propose plein de choses sympas. Et alors, qu'est-ce qu'on propose? On a un système pédagogique qui est fondé sur l'andragogie. Donc l'andragogie, c'est la pédagogie pour les grands, pour les adultes. On a une pédagogie qui s'appelle, qui est basée sur la théorie du socio-constructivisme. Donc c'est une pédagogie qui vise à permettre aux apprenants de construire leur apprentissage. On ne fait pas de cours magistraux, on n'a pas de PowerPoint, à part aujourd'hui. Mais on est vraiment sur quelque chose de on construit le savoir. C'est-à-dire que les formateurs sont des professionnels qui accompagnent à la découverte d'eux. On travaille beaucoup en projet. Nos apprenants, ils vont arriver en cours, on va leur demander de réfléchir, d'essayer de faire. Ils vont échouer et après on va leur dire pourquoi ils ont échoué et comment ils ont fait. Et Arnaud peut en témoigner. On leur fait gérer, par exemple, à ceux qui suivent le cursus de gestionnaire de contenu et de communauté, donc ceux qui font les réseaux sociaux chez nous, on leur fait gérer les réseaux sociaux de la fabrique pendant tout le temps de la formation. Bon, des fois, Arnaud, il dit c'est pas bon. Mais globalement, vraiment, ils apprennent en faisant. Chez nous, ils apprennent en faisant. Sur les développeurs web vont devoir, par exemple, cette année, développer une application météo. Bon, peut-être qu'elle ne marchera pas du premier coup, et c'est même probable, mais tant mieux, puisqu'on en apprend par ses erreurs, après tout. Hein. Donc on a une approche globale, c'est ce que je vous disais en début, on travaille aussi bien sur le socio-pro que sur le technique. Donc on donne des compétences techniques, ça c'est bon, mais surtout, on va avoir avec eux des cours qui s'appellent élaboration du projet professionnel, qui passent par la découverte de soi, donc on leur fait passer des tests RIASEC pour évaluer leurs compétences professionnelles, et après on constitue des équipes pour la gestion des projets sur la base du RIASEC, de façon à avoir des équipes qui soient complémentaires, où chacun trouve sa place, ceux qui sont innovants, ceux qui sont rigoureux, ceux qui sont artistes, qui vont avoir des idées, etc. On va avoir des équipes du coup qui seront complémentaires, et du coup ça fait des projets qui fonctionnent, et ça fait des gens qui se sentent bien dans l'équipe, ça pour nous c'est vraiment très important. On va aussi évaluer, par exemple, ce qu'on appelle le locus de contrôle. Alors, le locus de contrôle, c'est moi qui le fais passer, mais ça permet d'évaluer tout de suite chez quelqu'un s'il situe le contrôle de son environnement, de sa vie, de son projet, à l'extérieur de lui-même ou à l'intérieur. Est-ce qu'il est ultra dans le contrôle de ce qu'il fait, de ce qu'il dit, et du coup, il se sent coupable dès qu'il échoue, ou il se responsabilise et du coup, il se met beaucoup de pression? Ou est-ce qu'au contraire, il a tendance à penser que c'est toujours de la faute des autres? Mais c'est pas de ma faute, Juliette, je suis en retard, c'est le bus qui est pas arrivé à l'heure, c'est mon réveil qui a pas sonné, c'est ma mère qui m'a pas réveillée. Voilà, locus de contrôle externe, typiquement, ou quelqu'un qui, au contraire, va arriver 30 minutes en avance, ultra stressé, parce qu'il a peur d'arriver en retard, etc. Donc, on travaille toutes ces questions-là. On travaille beaucoup sur le développement de l'estime de soi. Pour nous, c'est vraiment, vraiment, vraiment très important. Pour être bien en entreprise, il faut développer une estime de soi qui soit saine, parce que C'est un monde qui nécessite quand même d'être armé aussi. Et on fait bien sûr un accompagnement individuel, donc on a des entretiens individuels réguliers, on est vraiment sur un mode de référent. On les reçoit régulièrement tout au long de la formation pour lever des freins et des difficultés qui seraient même périphériques à la formation. Nos phases. Alors on a une petite métaphore amusante de l'avion qui nous fait rigoler parce que du coup ça permet d'avoir un peu des blagues à longueur de mois de formation. La phase 1, c'est l'embarquement. Donc on embarque à l'aéroport, on passe la douane, c'est-à-dire on passe les tests chez nous, on passe l'entretien. Cet embarquement dure 2 mois. On a un tronc commun, donc on leur donne toute la culture numérique dont ils ont besoin pour pouvoir communiquer les uns entre les autres, puisqu'ils suivent des métiers qui sont différents au final, ils choisissent des spécialités différentes. On va évaluer leur identité numérique. On va regarder avec eux qu'est-ce qu'ils mettent sur les réseaux sociaux, quelles images d'eux-mêmes ils communiquent à l'extérieur, comment est-ce qu'ils utilisent l'informatique et est-ce qu'ils sont en mesure de se rendre compte quand ils sont sur Facebook pour suivre les news, à quel point et ben, du coup, ils sont dans une bulle informationnelle et ils n'ont que les informations que Facebook a estimées qui seraient susceptibles de les intéresser. Donc du coup, ils se coupent d'une partie de l'esprit critique, etc. Enfin, on travaille vraiment sur des points. On essaie d'évaluer où ils en sont au démarrage et on leur propose un plan individualisé de formation. On fait une cartographie de leurs compétences. On leur dit, voilà, vous en êtes là aujourd'hui. Où est-ce que vous voulez aller? Donc de quoi vous avez besoin pour aller là où vous avez envie d'aller? La deuxième phase, c'est le décollage. Donc au bout de 2 mois, à la fin de la période d'essai, si tout le monde est OK, ben, on continue. Et on commence vraiment, on rentre dans le dur. Donc l'intégration est confirmée, ils suivent, commencent les cours de spécialisation. Donc, on arrive vraiment dans l'apport technique. Ils vont faire des job dating, rencontrer des employeurs, commencer à se constituer leur réseau professionnel. On lance les projets numériques. Les projets numériques chez nous sont très importants. Et on lance la recherche de stage. La troisième phase, c'est la phase des turbulences. C'est là où, généralement, il y a la fatigue qui s'installe, aussi bien chez les formateurs que chez les apprenants. La phase de turbulence, elle est dure parce qu'ils sont en mode projet. Ils ont l'impression d'avoir plein de projets à gérer en même temps. Il faut qu'ils s'organisent dans leurs priorités. Le stress commence à monter. Les spécialisations deviennent plus difficiles. Et ils sont sur la dernière ligne droite pour la recherche de stage. Alors, la recherche de stage, on la fait pendant les cours. Hein, on leur donne des techniques de recherche d'emploi. On leur apprend à passer des entretiens. On les entraîne. Et ils trouvent tous un stage, donc ça se passe bien. Mais c'est toujours quand même quelque chose de stressant pour eux. Ce qui est très important aussi, donc quand je vous parlais de gestion de projet tout à l'heure à la Fabrique du Numérique, ce qui est très important, c'est qu'on a ce qu'on appelle les PNUS. Arnaud en a parlé un petit peu tout à l'heure. Les projets numériques d'utilité sociale. S'il y a des associations ici qui ont besoin, et je pensais peut-être à vous notamment, on lance effectivement un appel à projet. On va le lancer début décembre. On cherche des associations qui ont des besoins dans le numérique, qui ont besoin d'un site web, qui ont besoin de communication sur les réseaux sociaux, qui ont besoin d'aide sur le plan du numérique. Il y a un appel à projet à compléter. Ensuite, ces projets passent un jury qui va déterminer le niveau d'utilité sociale du projet en question, aussi bien pour la structure que pour ses bénéficiaires, par exemple. Et le niveau technique, il faut que ce soit intéressant pour nos apprenants et pas non plus trop difficile. Donc on cherche quelque chose un peu en juste milieu. Et ensuite, on fait réaliser ces projets par nos apprenants. C'est-à-dire que les groupes sont constitués et vous allez avoir des petits groupes de 4, 5, 6 apprenants qui vont gérer le projet de l'association, qui vont établir un cahier des charges, qui vont avoir des rendez-vous réguliers avec l'association et qui, peu à peu, par des rendez-vous, des comptes rendus de réunion, un suivi régulier, vont ensuite organiser la réalisation de votre projet. C'est-à-dire que ce groupe de 5-6 apprenants qui vous aura suivi pendant 2 mois va ensuite, en mode hackathon, c'est-à-dire pendant une semaine, faire réaliser par tout le campus votre projet. Donc pour eux, c'est le moment le plus difficile de l'année. C'est beaucoup de fatigue, beaucoup de stress, c'est compliqué, mais il faut mener à bien en 5 jours la réalisation complète du projet. Donc ils vont organiser le reste du campus, ils vont distribuer les tâches, ils vont contrôler les tâches, ils vont faire des briefings en début de journée, des débriefings en fin de journée, et à la fin, le vendredi soir, il faut que le site ou le projet soit réalisé, terminé. Et ensuite, il est présenté à l'association. Exactement. Ça leur permet à eux vraiment de montrer ce qu'ils savent faire. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ouais. Mmh. Eh bien, Poitiers-Niort, pour les campus, on répond. Pas de problème. Et bientôt Angoulême, ouais. Mais là, on va lancer les appels à projets pour Poitiers-Niort, volontiers. Une fois que tout ça est passé et qu'ils sont toujours là, ils passent en vitesse de croisière. Donc ils partent en stage pendant 2 mois où ils mettent en application tout ce qu'ils ont vu avec nous. Ils sont évalués par le tuteur. Donc on valide nous, leurs compétences en centre. Le tuteur valide les compétences en entreprise. Il y a les formateurs qui font une visite pour être sûr que tout se passe bien et faire un petit point 2 fois pendant le stage. Et ils rédigent un rapport de stage qu'ils soumettent pendant la phase d'atterrissage, dernière semaine de formation. Ils reviennent chez nous pendant 5 jours. On fait les soutenances des rapports de stage, on fait le point et puis ils s'en vont. C'est une formation qui est ultra intensive, on le répète, on le dit, on les prévient, on fait témoigner les anciens, on fait tout pour leur dire, voilà. C'est difficile, mais ça vaut le coup, parce que quand ils sortent de chez nous, vraiment, on a un taux de sortie positif qui est très chouette, dont on est fier. Et on a des retours, par exemple, de nos partenaires, comme l'ENI, l'École supérieure d'informatique, qui est située sur Nantes, sur Niort, qui nous dit que quand ils voient sur le CV Fabrique du numérique, ben, ils prennent. Donc ça, c'est l'équipe des formateurs. Donc des professionnels, ça c'est le référentiel, enfin les grandes thématiques du référentiel. Donc sur la première spécialité, développement web, donc on fait du JavaScript, du PHP, du HTML, du CSS. Gestion de parc et réseau, donc c'est tout ce qui touche à la configuration et à la sécurisation d'un environnement informatique, administration d'un serveur, déploiement du parc. Gestion de contenu et de communauté, donc tout ce qui va être notamment rédigé, animer le web, optimiser son référencement, etc. Les débouchés, donc ça c'était nos débouchés le dernier jour de formation, c'est nos chiffres de l'année dernière, qui sont évidemment à additionner, sachant qu'entre-temps, depuis il s'est passé plein de choses, et on a plein de nos apprenants, donc on était à peu près à 60% de sorties positives le dernier jour de formation, et là on est à 80, là. On est quasiment à 80. Ouais. Voilà, rejoignez-nous. Et merci de votre attention.
Merci Juliette Loriol. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Oui, allez-y.
Oui, donc David Adolphe, direct Nouvelle-Aquitaine. Ceux qui vont en entreprise, ils vont dans quel type d'entreprise? C'est des entreprises qui sont plutôt en transformation numérique, donc sur des domaines que vous avez cités dans vos formations, ou même plutôt des entreprises du numérique à proprement parler?
On a les deux. On a les deux. Pendant les job dating, pendant les événements auxquels on participe, et puis avec les partenariats qu'on a créés au fur et à mesure des années, on a aussi bien des très grosses structures à la CGI, par exemple, qui prend des stagiaires chaque année, qui généralement continuent après sur du recrutement, ou Hamilton, enfin des sociétés, des grosses entreprises implantées notamment sur Niort, que des toutes petites TPE qui ont des besoins fondamentaux de création d'un site web de base. On fait vraiment le grand écart. On est sur vraiment différents types de structures.
Encore une autre question. Quand ils arrivent chez vous en début de formation, ils ont une idée déjà de ce qu'ils veulent faire? Est-ce que ça change dans l'année un peu? Comment ça se passe les sorties?
Je dirais que l'extrême majorité vient avec un projet professionnel, veut pour la moitié d'entre eux en général être développeur web. Ça, c'est la majorité de la demande. De manière... relativement rare, il y a des changements de souhait, d'orientation, de spécialité pendant la période d'essai. C'est quand même très à la marge. La plupart du temps, ils viennent avec un projet et c'est quelque chose qu'on évalue, nous, pendant l'entretien de motivation, de voir justement quel est leur projet professionnel.
Oui.
Francis Ebeke, donc voilà. Je reviens sur votre collègue tout à l'heure. Et en lien avec ce que vous avez dit, merci déjà pour l'appel à projet qui va peut-être apporter un plus dans le cadre de cette association que nous voulons mettre sur pied, qui est déjà opérationnelle. Mais tout à l'heure, votre collègue parlait de la formation à distance.
Oui.
Donc je ne sais pas, je suis aussi intéressé.
C'est une autre des casquettes effectivement d'Arnaud, qui travaille aussi sur des structures qui font de l'enseignement à distance. Nous, à l'heure actuelle, ce n'est pas ce qu'on fait. Maintenant, on accorde quand même une importance dans notre pédagogie à tout ce qui se fait aussi à distance. Et on, dans le travail personnel, nos apprenants font aussi des choses de chez eux. Mais à l'heure actuelle, on n'est pas encore une formation à distance.
Bonjour, bah Marie Chenu, toujours.
Bonjour.
Du coup, je voulais savoir, qu'est-ce que vous apportez de plus dans votre formation que les formations Pôle emploi ?
La réussite, dit Arnaud. c'est cette espèce d'approche globale qu'on propose sur la construction d'une identité numérique et d'une identité professionnelle, sur la construction d'un projet professionnel et sur tout ce qui va être développement de la confiance en soi, de l'estime de soi, de la capacité à travailler en équipe, la capacité à travailler en mode projet, notamment en méthode agile. Tous ces apports-là qui donnent du coup à notre formation un côté vraiment, ouais, une approche globale.
Arnaud Lissajou. Je ne suis pas sûr qu'il y ait du 8 mois en Pôle emploi. En Nouvelle-Aquitaine, formation de 8 mois, professionnalisante, avec stage, 3 parcours. Je ne suis même pas sûr que ce soit un dispositif en fait, qui existe, tout simplement.
Un format. Nous,
ouais, c'est pas un format. Après, les discussions avec Pôle emploi, en plus, elles sont pas du tout concurrentielles. Bien au contraire, très complémentaires. Enfin, c'est hyper bien de pouvoir travailler avec Pôle emploi sur ces questions-là, parce qu'ils sentaient qu'il y avait un besoin sur de la formation un peu plus longue, comme ça. Sur 1, 2, 3 semaines, on peut trouver des choses avec Pôle emploi. On peut trouver à distance, en ligne. Hein. Quelquefois, il y a des Pôle emploi qui financent aussi la formation en ligne. Ça dépend des régions, ça dépend des Pôle emploi. Mais sur un dispositif comme celui de la Fabrique, il y avait assez peu d'existants, finalement. Et
Pôle emploi est un prescripteur important chez nous. Hein. Là, sur les candidatures actuelles, c'est un bon tiers des candidatures qu'on reçoit.
Oui.
Du coup, Virgilia Nadeau, pareil, master EPT. Du coup, c'est une question complémentaire, c'est votre formation par rapport à une formation universitaire. Je comprends qu'il y a une question de prix, mais vous voyez quoi comme différence ?
Nous, on n'est pas diplômant à l'heure actuelle. L'université l'est. Nous, on n'est pas diplômant, on est sur de l'apport de compétences de base qui permettent ensuite la poursuite d'études. Et notamment dans le cadre des reconversions professionnelles, les gens y viennent parce qu'ils savent aussi que chez nous, ils auront la base.
Bien. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, mais on peut continuer à échanger ici et en haut. En tous les cas, merci à toutes et à tous de votre présence. La prochaine table ronde, vous l'avez noté, c'est sur la santé et créativité territoire. Donc c'est toujours pareil, des regards croisés. Je crois qu'il y a des gens qui ont besoin d'échanger un peu entre eux. Je pense à Stéphane et à Juliette, justement, sur Novak 2020. Et puis, par ailleurs, on continue les visites créatives dans l'entreprise. Certains d'entre vous sont déjà venus à Châtellerault Nord. Donc la prochaine, elle est fixée. Il y en aura d'autres. Et par ailleurs, on continue aussi, puisque bon, il va y avoir les municipales en 2020, donc par rapport aux tables rondes, on est un petit peu plus dans l'attente pour l'instant, mais on continue quand même à faire des petites immersions créatives dans les territoires. Donc je le dis pour M. Jeannet, on peut faire quelque chose du côté de Ruffec-quoi. Et puis également, du côté du Mont-Morillonnais, on peut se voir et en parler. Bon, il y aura une table ronde sur les cartes, d'ailleurs, dans le cadre du Festival des cartes, mais ça sera en mois de mai. Voilà. Et puis, il y a aussi au Moulin de Retourné, début décembre, je crois. Je ne sais plus. Enfin, c'est sur l'agenda de emf.fr, rubrique créativité territoire, vous trouverez tout. Voilà, en tous les cas, merci. Et merci à nos intervenants. Et bon week-end prolongé, puisque c'est 3 jours. J'ai bien compris.